Sanivac, inventaire, service, qualité.
Ouellette, en direct.
Est-ce que c'est une célébration pour vous, cette arrestation de Nicolas Maduro qui s'est faite dans les dernières heures?
Bref, oui, c'est un moment de joie et de célébration pour, je pense qu'il y a une partie très importante des Vénézuéliens qui est autant ceux qui sont dans le pays que ceux qui sont ailleurs dans le pays. C'est une émotion majoritairement positive.
Ouellette, en direct.
Lundi au vendredi, midi.
Radio X. Choix.
Choix.
98.
98.
1. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
You ready?
Ready for what?
Couture.
Welcome.
Dans le mid. What?
Avec Pierre Couture.
Pierre, c'est un gars qui travaille 7 jours sur 7.
Et Nick Cloutier.
Proposant.
Couture.
Donc ça va brasser.
Dans le mid. Radio. X.
h 01. Bienvenue à Couture dans le mid jusqu'à midi. On a un très gros show pour vous autres. Jordan, ça va?
Ben oui, ça va très bien. Toi, mon cher Peter?
Ça roule à peine à la planche.
Yes, sir. J'ai recommencé le gym hier. C'était pas une résolution, mais c'est un 2 semaines off, là, tu sais, dans le temps des fêtes, saucisses dans le bacon, puis tout, un 6 livres, ça balance de plus. Il était temps qu'il se passe de quoi, là.
C'est sûr que là, c'est une résolution, hein?
Ben, c'est parce qu'on devient patate hein, dans les 2 semaines. C'est le fun de prendre ça relax, là, mais à un moment donné, il faut que tu restartes la machine.
Voilà.
Puis il y avait du monde en masse au gym hier, mais moi, je te promets que je vais rester plus qu'une semaine. Parce que souvent, après 3 jours, il y en a beaucoup qui lâchent.
Souvent ça.
Ouais.
Des résolutions tout croche, là.
Ouais, c'est ça. Tu cours-tu, toi, Pierre?
J'ai arrêté de courir parce que je m'étais blessé à mon pied.
OK.
Ma planque du pied. Ma plante du pied.
Ah, oui.
Le tendon d'Achille.
T'avais pas des bonnes semelles.
Non. J'étais des très bons souliers. D'ailleurs, j'avais eu des souliers d'Azik.
Ah, c'est vrai? T'avais des Azik. Ah oui.
Mais comment il s'appelle le représentant? Louis Lewis.
Oui.
Tu sais, on avait été courir avec JC.
Oui.
Puis Lewis, il est arrivé avec des souliers à tout le monde.
JC
avait couru un kilomètre, ici avec la police.
Oui.
On était partis
de la Limagoire. Ils l'ont escorté, ils n'ont pas pris de chance. L'ambulance était en arrière.
Ah, c'était capoté. Il y avait JC, il y avait Pat, il y avait Bao qui était là.
Mais il courait-tu, JC, ou il faisait semblant?
Non, il courait.
Il courait?
Hey, JC, c'était remis en forme.
Ah, ouais.
Ah, ouais. Puis Lewis d'Azik.
Ouais, puis il avait mis une belle banderole au fil d'arrivée de Jean-Claude.
Lewis est arrivé avec des Azik à tout le monde. Il a dit, écoutez, choisissez votre paire de souliers, je vous commandite la...
C'est donc bien
hot. Capoté. Hey, ça, c'est des bons souliers. Là.
Ah, ouais, c'est sa grosse coche pour courir, ça, surtout. Là.
Mais je marche, là. À tous les soirs, je vais chercher un... 30 à 40 minutes de marche.
Très bon.
Très, très active. Là,
ouais.
Je me mets mes écouteurs sur la tête, puis là, j'ai l'air d'un. Avec ma calotte, puis mon.
L'air d'un bandit.
Ah, l'air d'un bandit à Limoilou. Écœurez-moi pas.
Ouais.
J'ai mon spray pour les chiens, puis je me fais pas tanner.
Il est prêt, lui, avec son spray à ours. Hein.
Exact.
Mais non, la course, ça m'agane. Je te le confirme.
Assez tough.
Je l'ai fait une couple d'années, puis à un moment donné, mes genoux, je les sentais se détruire en morceaux. Là. Je me suis dit, aussi bien slacker ça. Puis tu sais, de la marche rapide, ou même au gym, sur le tapis de roulant, tu te mets en inclinaison.
Oui.
13,5, tu montes ça dans le tapis. Tu m'en shape pareil avec ça. Là.
Tu vois, ma blonde, elle a fait du spin.
Ah, c'est très bon, ça.
Elle fait du spin 3-4 fois par semaine. Là.
Ah, oui.
Spineuse, non, ouais, ça.
L'elliptique aussi, c'est pas pire.
Ouais.
J'aime bien ça.
Non, fait que. Non, ben, il y a des résolutions comme ça, il faut pas lâcher.
Mm-hmm.
Je regarde, température, là, ça va casser, là. Là, il faisait moins...
Bon, on sent déjà, là.
Moins 18, moins 20. Là, on est à moins 13 et on s'en va vers le moins 8. Et on annonce... Hey, j'ai vu du 1 puis du 2 degrés.
Ouais, vendredi, moi, j'ai du 2.
Mais ça, exact.
Ça se prend bien. On était dû, là.
Oh, t'es dû.
Parce que, tu sais, à un moment donné, un moins 20 une fois, tu vas comme, OK. Mais après une semaine, moins 30 le matin, le char a de la misère à partir, là.
On l'a eu tough.
Ouais.
Depuis un mois, là...
On a le vent dans la face.
Voilà, salutations à Nick Cloutier.
Ah oui, il est où, là, Cloutier?
Dans le sud.
Ah ouais.
Mais bien.
C'est la coule d'eau, ça, même.
Bon, okay. Oui, il va revenir. Il m'a dit qu'il allait revenir la semaine prochaine.
On va voir.
Moi, je pars le 23. Je pars une semaine dans le sud le 23 janvier.
Tu t'en vas où?
Mexique.
Puis le prix du billet, c'était pas trop pire? Parce que ce temps-ci de l'année, t'es comme dans le prime time, là.
Ben écoute, moi, ma blonde, c'est une spécialiste du voyage. Fait qu'elle, elle a mis en place une stratégie pour payer le moins cher possible. En tout cas, on surveille beaucoup parce que tu sais qu'il y a une tarification dynamique.
Oui.
Il fait beau, il fait pas beau. telle date, telle, à telle, telle heure, ça peut changer rapidement. Puis je te jure, on paye nos billets d'avion quand même à des prix très raisonnables.
Mais c'est pas tant de dernière minute que vous faites, là.
Non.
Vous êtes quand même d'avance.
Oui, c'est ça. Tu te prends d'avance, mais des fois, ça varie beaucoup.
T'es capable d'être dans le dynamique, même si tu te prends de loin un peu, là. Parce que Mel Guimet nous disait ça, bien souvent, il faut que tu réserves limite un an et demi d'avance pour avoir des bons deals à cette heure. Tu sais, du dernière minute à 800$, t'en vaux plus bien, bien.
Oui, mais ce que tu fais aussi, tu peux avoir ton agence de voyage, là. C'est-à-dire que tu regardes des prix. Mais t'appelles ton agence de voyage, elle a le même prix, elle, là, à peu près sensiblement pareil.
Oui, oui, c'est clair.
Je voyais, les agences de voyage sont capables d'aller à côté les prix d'Internet, parce que souvent, Internet, c'est des agences de voyage en ligne.
Oui, c'est ça.
Donc, ils ont les mêmes prix. Donc, t'as juste à avoir un contact, puis tu dis, écoute, tu me l'accotes-tu, bien, souvent, ils sont capables de le faire. Là. Si l'autre le fait, ils sont capables.
Non, c'est sûr.
Donc, ils l'ont. Et tu vois, là, ça a monté, les prix dans le sud, parce que Cuba devient de moins en moins...
C'est pas une destination soleil.
Bien là, il y a comme une petite panique là, chez les agences de voyage.
Non seulement, même plus de frites, mais juste de l'air. C'est pas que ça soit tough.
Bien, moi, c'est ça aussi, c'est les resorts. Moi, j'étais allé à Cuba souvent. Là. À un moment donné, j'étais avec un de mes chums, on se louait des petits scooters, puis on allait porter des produits qu'ils n'ont pas d'un village.
À Varadero, ça?
On a fait
Holguin.
On a fait Holguin.
Ouais.
On a fait Varadero. Puis à Cuba même, là, à La Havane.
OK.
Mais c'est pauvre, là.
Cuba, ah non, ça fait dur, en maudit.
C'est pauvre, c'est de l'extrême pauvreté.
Tu traînes des Advil quand tu t'en vas là-bas, tu leur donnes ça, ils sont bien contents.
Et là, ce qu'on comprend avec Maduro, qu'on a expulsé, là, qu'on est allé chercher... Mais le régime de Cuba est pareil comme le Venezuela, là.
Oui, mais l'un l'autre, là, il y a la main dans la main depuis des années.
C'est des pannes de courant volontaires. C'est du rationnement. Tu sais qu'à Cuba, ils gagnent toute une pièce de journée, là.
Oui.
Une pièce de journée, là.
C'est débile.
C'est à peu près ça, là.
Le médecin, il fait pas mal ce pièce-là aussi. Là.
Puis t'as l'armée. Donc, dans les resorts, ce qu'on voit, c'est vraiment un côté qui est très artificiel. Parce que t'as beaucoup de militaires et de proches de militaires qui travaillent dans les resorts parce qu'ils ont du type. Ils ont accès à des ressources qu'ils n'ont pas ailleurs. Et pour récompenser les militaires qui gardent au pouvoir les hauts dirigeants du Parti communiste socialiste de Cuba, ben il faut récompenser notre monde. Donc, on leur donne les meilleurs jobs.
On donne le cash. Ah oui.
Oh, oui, c'est de même, ça marche.
C'est malade.
C'est capoté.
Je sais pas comment ça va aller, là, mais ça va être tough économiquement parlant, eux autres. Là. Déjà que ça allait très, très mal depuis la COVID.
Ben, même de médicaments.
Ben c'est ça. Mais médicaments, alimentation, tout ce que tu voudras, le monde sont tellement pauvres là-bas. C'est triste à voir.
Pauvre et contrôlé.
Ah oui, à fond.
Ça surprendrait pas que ça tombe. D'ailleurs, 10h40, on va voir Jérôme Blanchette-Gravel avec nous autres dans le show Libre Média. C'est le rédacteur en chef de Libre Média. Jérôme arrive d'une tournée en Argentine. Il est allé rencontrer la gang à Milé. Il va nous parler de toute cette zone-là. Jérôme connaît très bien l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le Mexique, notamment. Sa conjointe vient du Mexique. Fait qu'on va parler de toute cette dynamique-là, tout ce qui s'en vient dans les prochains mois, et je pense que ça va bouger beaucoup et rapidement.
Oui. Mais,
pour voir comment il y a besoin d'un jeu de domino.
Oui, c'est ça.
Parce que là, Cuba pourrait
sans
tomber.
Sans que les States aient à faire des interventions militaires, il y a bien des affaires qui pourraient se produire. Ouais.
Et derrière tout ça, tu sais, c'est une guerre Chine-Russie États-Unis, là. C'est vraiment l'axe...
La Chine avait beaucoup de satellites au Venezuela, faut pas oublier ça, là.
Non, mais n'oubliez pas, les Chinois ramassaient le pétrole, là. Si c'était pas les Américains qui le ramassaient, c'était les Chinois, là.
Ouais.
Il y avait des ententes, on me dit qu'il y avait même des délégations de la Chine qui étaient là, là.
Xi Jinping doit avoir la gueule à terre, là, présent.
Ben, c'est sûr que là, il venait jouer dans la Tal des Américains,
pas
à peu près.
On n'avait pas pensé que ça allait procéder aussi vite que ça, là, parce qu'on l'entendait, là, les militaires étaient proches, les interventions étaient sur le terrain quand même, là, mais de faire ça de manière éclair de même, c'est assez spectaculaire de la part des États-Unis.
Là. Voilà, voilà, voilà. Là, vous l'avez vu dans les dernières heures, on a vu des reportages, je pense que c'est Radio-Canada qui s'intéresse à ça, là, la vente en ligne de cocaïne. Meta, on sait qu'on peut acheter de la cocaïne en ligne et on le sait parce qu'on avait eu un reportage ici.
Ben oui, c'est vrai.
Il y a quelques semaines de Max Lacasse. Max, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ben oui. T'es pas surpris, là, parce que ça sort dans d'autres médias, mais t'es un des premiers, je pense que t'es le premier au Québec.
T'es le pionnier, Max.
Au Canada de n'avoir parlé. Là.
Ben, je vais le prendre avec un petit velours. Je le sais que Toronto Star, dans les dernières années, l'avait abordé sans toutefois aller en profondeur, comme on l'a fait dans le show du midi avec JC et Pat. Mais m'a dit une histoire un matin quand je me suis levé puis je suis tombé là-dessus, j'ai fait, ben, coudon. Il n'y a pas d'autre façon que de le prendre comme un petit velours parce que l'article qui est piloté par la facture chez Radcan est Aziz. Il est pareil, il prend à peu près les mêmes photos que j'amenais en onde.
C'est vrai?
Il prend à peu près les mêmes termes. Ils ont parlé à deux personnes différentes, des personnes avec qui moi j'ai parlé. Puis à peu près, bon, tu sais, dans ce milieu-là, tu peux trouver toutes sortes d'experts, là, donc t'es pas nécessairement obligé de parler avec les mêmes. Mais
tu avais une bonne base de recherche avec tes affaires. Là.
C'est la même affaire. C'est littéralement la même affaire.
C'est ce qu'on comprend, c'est que Google, mais Meta, eux autres, continuent à... Tu sais, je veux dire, on comprend que tu peux faire une plainte, la pub disparaît. Mais en arrière de tout ça, il y a comme des réseaux très bien organisés.
Ben, ce qui est arrivé, c'est que là, 2 mois, quand j'ai fait ce reportage-là, moi, j'ai rentré en contact avec la GRC, avec la SQ, avec Post Canada, avec tous les organismes qui sont mêlés de près ou de loin avec cette situation-là. Et je suis aussi entré en contact avec Meta. Et sur le coup, les publicités que je leur avais envoyées, ils m'ont dit, on les a enlevées. Mais l'affaire, c'est que 3-4 jours après,
ça revient.
Les publicités recommencent sous d'autres noms de pages. Puis c'est un chien à trois têtes. Là. Tu coupes une tête, puis les têtes repoussent tout le temps.
Puis c'était-tu la même image qui revenait tout le temps ou c'était des types d'images modifiées?
C'est des variantes, mais toujours avec en ligne de mire la cocaïne en bonne et due forme. Donc, fut une époque où tu avais des pubs sur Internet de drogue, que ce soit du cannabis ou de drogue dure, mais c'était toujours un peu caché, c'était camouflé, c'était très abstrait, la façon dont on portrayait la drogue. Mais la cocaïne, maintenant, elle est en roche. Là. Tu la vois, c'est comme si elle sortait de la brique du cartel. Fait que là, il y a vraiment un enjeu aussi au niveau des enfants.
On peut comprendre si c'est des cartels qui sont derrière ça, là?
On pense que oui.
Parce que si, mettons, c'est des entités criminelles. Toi, t'es un cartel. Pour vendre ta cocaïne dans d'autres pays, t'as besoin de sous-traitants, là, donc là, c'est des intermédiaires. Mais si t'es capable directement d'écouler ta drogue par le web avec des VPN puis d'être tout le temps... de jamais te faire pincer, là, c'est merveilleux.
Ce qui est plus fou là-dedans, c'est que la SQ et la GRC font rien. Ils font rien pour ces publicités-là en ligne parce qu'eux autres, ils visent les organisations criminelles au sens large.
C'est trouver, ça vient d'où, cette histoire-là.
Exactement.
À ce moment-là, quand c'est la police d'Internet qui embarque, il n'y a jamais de dénouement heureux. Là.
Si jamais ils font une frappe, puis ça donne...
Meta, là. Meta, puis Google, là, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Là.
Ils ont un rôle, mais c'est tellement gros, Meta, là. Mais toi, c'est Facebook,
mais c'est pas une
Instagram.
Raison.
Ben non, c'est pas une raison.
C'est pas une raison.
Le service à clientèle, tout est boring. Là. Quand t'as un problème avec une page Facebook, on le voit, là, t'envoies quelque chose
mais
à Meta.
C'est pas long, par exemple. Parce que moi, tu sais, j'ai été victime là, récemment de faussaires, puis je l'ai rapporté assez vite. Il y a du monde qui l'a rapporté, puis la page a disparu. Là.
Okay.
Donc, ça va assez vite quand même quand tu rapportes. Mais là, j'imagine que ces organisations-là sont très bien structurées. Ils ont des VPN, sont cachés à l'étranger. On passe par plusieurs pays avant d'arriver, peut-être, puis... On se cache derrière des écrans, là, évidemment, mm-hmm. des sociétés écrans.
C'est ça. Pour une page qui ferme, j'ai l'impression qu'il y en a deux qui rouvrent. Fait qu'ils sont très bien organisés, comme tu dis. Et là, moi, l'enjeu que je trouvais, qui était l'enjeu principal de mon point de vue, c'est que Meta est accessible aux enfants. À tout le monde au Canada, là, en Australie, ça l'est un peu moins. Mais maintenant, les enfants ont le droit d'être sur Meta, sur Facebook, sur Instagram. Ce qui veut dire qu'ils sont en proie à être observés par ces publicités-là. Ils sont en proie à voir ça. Et qui dit voir ça sur Facebook, enfant dit aussi carte prépayée. Facile d'accès pour un kid, 13-14 ans, va dans un dépanneur, s'achète une carte de crédit et va sur ces sites-là parce que tu peux acheter de la drogue sur Internet avec une carte de crédit.
Débile, pareil.
Mais le gouvernement américain là, qui va chercher Maduro pour supposément là, de la cocaïne, je veux dire, ils sont allés chercher des gros cartels du fentanyl.
Ouais.
D'ailleurs, il y avait, comment ça s'appelait, le site web là, qui était sous-jacent, puis il y avait un Québécois. Là, de
Silk Road.
Oui, un Québécois de Trois-Rivières qui était derrière tout ça.
Oui, oui. Ça,
lui,
c'est
fou. Lui, il case, puis ils l'ont retrouvé, je pense, dans sa cellule, à la veille de son extradition aux États-Unis. Là. Lui, il était en Thaïlande? Il était où?
Oui, il était en Thaïlande, je pense.
Il était retrouvé mort dans sa cellule. Lui, il devait être extradé le lendemain vers les États-Unis parce qu'il... On vendait du fentanyl à des jeunes Américains, puis il y avait des jeunes qui avaient été trouvés.
Et ce gars-là, c'était pas Silk Road, exactement le site, mais c'était une variante qui ressemblait beaucoup à ça. Puis le gars vendait des missiles en ligne.
Ah, c'est fou!
Payé avec de la crypto sur le dark web. Et ça, c'était sur le dark web. Maintenant, ces drogues-là sont accessibles en ligne
sur Internet sociaux.
Conventionnel. Fait que, tu sais, pour en revenir à Radio-Canada, c'est le fun qui en parle. Je trouve que c'est cool parce que la nouvelle fait du chemin.
Bon, oui, il faut en parler.
Faut que les gens soient au courant de ça, non seulement pour eux, mais aussi pour leurs kids. Tu sais, quand t'es un parent, tu veux le savoir. Ton enfant, il visionne quoi sur Facebook? Je pense que c'est important. Puis pour le reste, ben, il manque des statistiques dans l'article de Radio-Canada, fait qu'il aurait pu faire une meilleure job.
Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un procès qui s'ouvre à Québec. Là aussi, il y a une grosse saisie de drogue en 2024. Hey, 50 kilos.
Ouais, c'est une saisie historique, ça.
50 kilos de cocaïne saisie dans un local de musique à Saint-Sauveur.
Hey, c'est du stock, hein? Ça devait jouer sur un moyen temps dans ce local-là.
Ben là, le gars, c'est Philippe Dionne.
C'est de là qu'est né YouTube.
Le procès de Philippe Dionne, lui, il cachait. Ce qu'on comprend, c'est que lui, c'était un musicien, mais il recevait sa dope. Et après ça, il allait cacher ça dans un local dans le quartier Saint-Sauveur, un local où il y a plusieurs bandes de musique qui jouent là. Et quand les policiers sont rentrés là, écoute, ils ont rentré, ils ont 50 kilos.
Hey, c'est du stock, pas 50 bon kilos, ça. Là. 50 kilos, c'est un grand importateur ou un grand vendeur. Là.
Il y avait-tu trouvé du fentanyl aussi là-dedans?
Et toutes sortes d'affaires là-dedans.
Ouais,
là.
Il y a ça devait être fentanyl, un beau package.
Oh, oui, c'est un package. Ils ont trouvé un gun aussi. Donc, c'est pas des doux, là. Mais ça rentre de partout, hein, la cocaïne. Là, ça...
ben, c'est comme l'argent, la drogue est partout autour de nous. Finalement, ça ressemble pas mal à ça. D'ailleurs, la chronique qu'on a faite dans le show de JC et Pat est disponible encore sur le site de Radio X. Et elle est aussi disponible sur YouTube. Rebel News a repris le reportage en me nommant, ce que Radio-Canada n'a pas fait. Mais je les salue quand même, chapeau bien bas. Fait que tout ça est disponible en ligne si vous avez envie d'aller écouter ça.
Est-ce qu'un jour, l'État pourrait vendre la cocaïne? Parce que, je sais que...
Décriminaliser tout ça?
C'est au Portugal où on
c'est
vend...
C'est décriminalisé au Portugal depuis la fin de la dictature. Mais est-ce que c'est une bonne idée que le Québec, le Canada, vende lui-même de la drogue dure? Je le sais pas. Décriminaliser, moi, je pense que ce serait un pas dans la
bonne
direction.
Parce qu'elle est partout, là. Je veux dire, là, tu rentres dans n'importe quelle place. Écoute, à un moment donné, moi, j'étais au Festival d'été de Québec. Écoute, c'est des flounes qui arrivent à côté de nous autres. Puis là, c'est un jeu du soir. Il y a pas d'enjeu, là.
Exact.
Hey!
Les sacs de poudre, toi.
C'est de la poudre direct demain. Une clé, deux clés, tout allait bien, là.
Ouais, mais je pense qu'on va avoir une SQ des coca, non pas long.
mais je sais pas.
La SQC, la Société québécoise de la coke.
Mais c'est parce qu'ils contrôlent pas la base. Tu comprends que si la cocaïne, elle arrive de la Colombie, elle arrive d'un pays où il y a des cartels.
Ben, c'est ça.
Là, ça prendrait les laboratoires au Canada pour faire de la coke.
Ben, ça se fait pas en laboratoire. Faudrait faire pousser du coca, ce qui est très difficile. Fait que je pense que la décriminalisation, c'est bon parce que, d'un côté, ça nous permettrait d'enrayer le marché noir d'une certaine façon. Et de l'autre, de faire de la prévention en ce moment.
De savoir ce qu'il y a là-dedans aussi.
Ben, oui, notamment, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites sur les dangers de la prise de cocaïne à grande échelle ou de toute autre drogue dure parce que c'est criminel. Fait que les labos, ils n'ont pas de financement, les scientifiques, ils n'ont pas de financement ou à tout le moins, ils en ont très peu pour faire ça. En décriminalisant, non seulement tu rouvres la porte à des études de masse pour pouvoir faire de la prévention, de la sensibilisation qui est plus target, qui est plus straight up. Puis de l'autre bord, ben, tu peux aider les gens qui sont dans des problèmes de consommation.
Je sais pas, parce que, tu sais, on le voit là avec le cannabis, là, on a un laboratoire 2018, là, l'égalisation du cannabis. Mais moi, je vois beaucoup de consommation de cannabis chez les jeunes.
Oui, puis c'est légalisé.
Oui, puis là, l'argument, c'est c'est légal. Oui, mais c'est parce que tu te vois-tu aller, t'es légal.
Mais d'un autre côté,
c'est gelé à journée longue.
Oui, mais ce qui peut être plus le fun là-dedans, parce que là, légal, techniquement, c'est 21 ans. Maintenant, avec la SQDC, ils ont monté ça. Mais tu sais, ce qui peut être le fun, c'est que tu sais pertinemment qu'est-ce que tu vas consommer.
Oui, mais parce que t'as-tu plus de gelé aussi? Parce que, tu sais, moi, je me souviens...
Il y en a-tu plus qu'avant?
Ben, il va toujours en avoir.
Marché noir, t'es fort pareil.
Oui, il va toujours en avoir, mais c'est comme c'est légalisé, on dirait qu'on a comme dit, ah, c'est correct. Ah, oh, allez-y, je les vois à journée longue.
C'est on brise. Je pense qu'on brise le tabou plus qu'autre chose.
Ouais.
Ben, en tout cas, il va peut-être falloir faire des études parce que là, t'as du monde aussi. Des jeunes qui fument du pot, puis qui fument du pot, puis qui fument du pot, puis qui font des psychoses.
Le problème, c'est les wax pens.
Puis après ça, ils se ramassent à l'urgence, puis après ça, ils. Tu sais, je veux vraiment donner.
Parce que t'es wax pen quand t'as un taux de THC concentré à 95% dans ton crayon.
Ben, c'est ça. Tu parlais de la décriminalisation au Portugal. Là. Les chiffres aujourd'hui, ça démontre que ça a eu un grand impact. Il y a moins de poids sur le réseau de santé. Donc, ça coûte moins cher aux citoyens du Portugal de financer le système de santé. Ceux qui se font arrêter avec la consommation, au lieu d'aller en prison, ils se font orienter vers un thérapeute qui les aide à sortir de leurs problèmes, sont suivis. Donc, il y a beaucoup de bienfaits.
Ça, c'est des drogues dures, là. C'est pas du pot, là.
Ah non, c'est les drogues dures parce qu'à la fin de la dictature, au Portugal, ils ont eu un méga problème d'héroïne parce que dictature, quand ça s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas accès à de l'héro puis de la poudre puis tout ça. Ben,
open
tout
world.
Le monde est tombé dans l'héroïne comme sa misère dans le pauvre monde. La
seringue
dans le bras puis tout. Là, fait que c'est pour ça qu'ils ont décriminalisé.
Mais pour être allé au Portugal, là, tu sors de ton hôtel, tu arrives, mettons, dans la rue, là, le gars, il rouvre son côte. Il dit, hey, qu'est-ce que tu veux, man? Il t'offre tout. Là.
Il est à poil?
Tout. Non.
Avec mais sa belle chemise,
tout, ça devient harcelant. Là. Tu sais, à un moment donné, tu es
gaspillé. Ben oui, c'est plate, ça, se faire offrir de la drogue de même sur tous les coins de rue.
Ça n'a pas de sens. Hey, merci, Max.
Hey, merci à vous autres.
Voilà, donc, gars, grosse saisie de drogue. Bien là, il y a un procès qui s'ouvre à Québec au palais de justice.
On testera ça, Max. On commandera pour le fun, voir.
Ça va être correct.
Ouais, c'est ça, non. mais je sais pas si on va aller sa coke. Ils ont de la misère à gérer le cannabis, le gouvernement. Fait que
c'est sûr que tu ouvres une porte à quelque chose qui va être bien compliqué à contrôler, by the way. Là.
Ouais.
C'est plus que tu es dans la pertinence de ton produit. Si tu en vas dans quelque chose qui est un peu plus consommable, entre guillemets, même si ça l'est pas tant.
Mais c'est parce que les cartels pourraient continuer à inonder le marché. Tu comprends?
Ouais.
Les cartels sont à Colombie, sont au Mexique, sont dans l'Amérique du Sud, sont un peu partout. Donc même si tu commences à produire et à vendre de la cocaïne légalement ici... avec des laboratoires, puis peut-être même de la production ici, là, pour contrôler de A à Z la chaîne de production. Mais tu aurais quand même du marché noir qui se ferait alimenter pareil.
C'est ça, parce qu'on le voit avec le cannabis. Là, le marché noir reste très fort.
Reste fort, mais de moins en moins.
C'est sûr qu'il baisse un petit peu, mais depuis la légalisation, on n'a pas vu une si grosse différence que ça. Là. C'est pas une perte à plein volume, on s'entend. Là.
Voilà. Autre chose qui fait beaucoup jaser, Charles Milliard qui annonce là, qu'il y va. Là. Il se lance...
La candidature.
Oui, il se lance, lui, Parti libéral du Québec. Là, Pablo, on l'a vu, là, Pablo a pris ça d'un grain de sel. Je sais pas si vous avez vu à Infoman. Pablo était là, puis il riait, puis... Je trouvais ça drôle là, que ce ne soit plus là, les
mais
gaffes.
Techniquement, on s'entend que Milliard l'aurait eu le poste là, s'il n'y avait pas eu de vote, peut-être acheté. Une...
Ah non, mais c'est ça. Puis moi, on me disait à l'interne, puis quand on parlait avec Luc Ouellet, notre analyste politique, lui, les échos qu'il y avait, c'est que Charles Milliard était en avance sur Pablo Rodriguez. Et là, je ne sais pas ce qui est arrivé. À un moment donné, il est arrivé des votes. On a vendu des cartes de membres, puis là, ça s'est mis à rentrer pour Pablo Rodriguez. Et on a pris le... Puis là, vous l'avez vu, le scandale autour de ça. Est-ce qu'on va fouiller autour de Charles Milliard? Est-ce qu'on va être capable de voir si, dans l'entourage de Charles Milliard, il y a eu du taponnage aussi? Parce que là, lui, là, il vient de se mettre... J'espère qu'il a fait le ménage autour de lui. Là.
Ben oui, surtout ça. Là.
Parce que là, imagine-tu si le Parti libéral, on découvre que Milliard aussi avait des crosses de candidature.
Ah, s'il se présente de même, je peux pas croire.
Oui, mais Pablo aussi s'est présenté, là.
Ouais, mais Pablo, ça avait l'air d'être un peu plus croche, là.
Ouais, mais je sais pas, tu sais, on sait pas.
Non, je sais.
Peut-être du fling-fling, c'est dans le parti libéral, là, tout ça, de cette patente-là, là.
Ouais, mais si t'oses mettre ton nom sur le papier en disant « je me représente, faut que tu sois plus blanc que blanc »,
là, ça va gratter.
Ben là, t'as pas le choix, là.
Là, il va y avoir du grattage.
Ils vont fouiller à côté, notre bureau d'enquête, ils te lâcheront pas, là.
Exact, fait que c'est ça qui s'en vient. Charles Milliard, ce qui sera couronné, parce que là, il y a une course à chefferie qui est annoncée, mois de mars, ça va être... On va avoir la. Puis là, il va y avoir d'autres mondes. Et on parle de certains noms qui pourraient annoncer aussi qui y vont. Est-ce que ça va être un couronnement là, de façade? Parce que Milliard avait quand même pas mal de monde qui votait pour lui.
Bien, c'est ça. Puis là, ben les autres candidats potentiels, c'est Guy Cormier, là, l'ex-PDG de Desjardins.
Ah oui?
Oui. Bien, c'est son nom circule. Là. Je sais pas si c'est ben, du sérieux.
Son nom circulait pour la CAQ aussi.
Oui.
Lui, il est-tu à tout ou.
Peut-être. C'est peut-être une Gertrude Bourdon.
Je sais pas.
Non, mais moi, qui sont les autres? Là? C'est ça la question aussi.
Je me méfie beaucoup.
Parce
là,
que de... Milliard va probablement être et de loin numéro un dans cette course-là, là, tout dépendant de qui va se pointer dans la course.
S'il n'y a rien qui sort de scandaleux, moi, je pense que Milliard, il va. Là.
Oui, oui.
Et je réitère ma projection. Je pense que les élections qui vont avoir lieu au mois d'octobre prochain, on va avoir un gouvernement minoritaire au Québec.
Avec un PLQ qui va aller en chercher pas mal.
Le PLQ va remonter, Duhem va remonter, mm-hmm. La CAQ, on sait pas, hein, Legault va-t-il s'accrocher? On comprend que la CAQ remonte tranquillement, là, mais...
En raison de la descente du PLQ.
Ouais.
Mais c'est un Milliard qui arrive fort, puis il inspire confiance.
Argument...
Là, la CAQ peut baisser après.
Oui, mais c'est le PQ, la cible. Donc, les arguments fédéralistes, indépendantistes, tout ça, là, on va jouer cette carte-là. Je suis pas sûr que Pablo était le bon gars pour ça.
Non.
Le Milliard est plus jeune... plus articulé, milieu des affaires.
Ben c'est ça, le monde qui vont penser voter PQ vont arriver au bulletin de vote. Ouais, finalement, PLQ, 6 milliards est fort.
Ouais.
Ils vont plus se revirer vers ça que la CAQ, on s'entend.
Oui, la CAQ, elle, ben, c'est l'image, c'est le boss.
Ben, tout dépendant si Legault reste, là, qu'est-ce qui va se passer avec Frankie?
Tout peut arriver, hein?
Ouais, absolument.
Parce que t'inverses Legault puis tu mets un autre nom.
Mettons un Drainville.
Ben, je sais pas, mettons Mario Dumont.
Ouais, Mario Dumont, c'est...
Non, mais là,
ça changerait à Game
non,
du Monde.
Mario Dumont passe la grappe.
Ah ouais, pas mal sûr, moi, avec.
C'est terminé pour tout le monde.
Il est à TVA chaque jour.
Ouais,
Madame va triper. Là.
Ben, c'est ça. Fait que je sais pas, on lance des affaires, puis de Mario Dumont dit « Non, attends, là, on va voir. »
En même temps, il est bien, là. Imagine, il perd encore, là.
Ben, il est bien, mais les médias traditionnels, là, je veux dire, c'est une débandade. Là.
Quoi que t'as le rêve de premier ministre là, qui te pente les mains, là. T'as une possibilité de te présenter au pouvoir. Puis on a vu ce qui s'est passé. On fait souvent le parallèle avec Carney. Il est arrivé out of the blue. Puis il a trouvé le moyen d'y gagner pareil.
Oui,
ces
non,
élections.
Non, comme je te dis, tout est possible.
Ben oui.
Mais il peut arriver bien des affaires. En tout cas, regarde, Milliard se lance aujourd'hui. D'ailleurs, on va ouvrir les lignes là-dessus autour d'11 heures.
Oui, on fera entendre un extrait de Milliard, entre autres, pour son annonce.
Voilà. Notre invité, il est là. François Vincent, vice-président Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va bien. Bonne année 2026. Ouais. On va souhaiter beaucoup d'amour pour nos PME qui en ont besoin. Hein?
Clairement. On a fait le bilan. Dans le fond, on a tout pris nos données du baromètre des affaires. de l'année 2025. Puis on a comparé ça à 2024. Puis la confiance des PME là, a diminué. Donc, c'est tough pour nos dirigeants de petites entreprises. Puis c'est elles et eux qui sont la tête de ces petites entreprises-là là, qui assurent là, la viabilité, l'économie du Québec. Là. Notre économie, c'est une économie de petites entreprises.
Oui, puis je voyais le nombre de PME au Québec. C'est en chute libre, hein? Si on regarde les 10 dernières années, là, j'ai vu des statistiques passer. Je pense que ça se peut-tu que ça a diminué de moitié, le nombre de PME au cours des 10-15 dernières années au Québec?
Non, on a encore le même nombre sensiblement. Là. Il y a eu peut-être moins de monde qui se partent en affaires, mais le nombre d'établissements employeurs okay. là, est sensiblement dans le même nombre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas diminuer, là, parce que tu sais, la pyramide des âges est la même pour tout le monde au Québec. Hein,
mais je pense que c'est le nombre d'entrepreneurs. C'est le nombre d'entrepreneurs que j'avais vu qui avait diminué de moitié au Québec.
Ça se peut. Oui, Madame Riverain, je pense, qui avait écrit là-dessus. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose à regarder.
C'est inquiétant, ça. Ouais, le nombre d'entrepreneurs, parce que nos entrepreneurs, c'est eux autres qui crient. Hein?
Ben oui, c'est pas le gouvernement qui assure l'avenir économique. Puis je pense qu'on l'a vu dans les dernières années. Là. C'est pour avoir des belles idées de créer de nouvelles filières, puis etc. Là. Puis jeter des milliards, investir des milliards partout. Mais ces milliards-là auraient été tellement plus efficaces si on avait juste baissé les taxes à masse salariale, si on avait baissé le taux d'impôt pour les petites entreprises. Puis laissons donc les 270 000 créateurs, entrepreneurs, décider ce qu'il y a de bon pour eux autres plutôt d'essayer de forcer quelque chose. Donc, j'espère que c'est que 2026, ça va être l'occasion. Là, ça va être une grosse année, là, une grosse année politique. Il va y avoir des élections, mais j'espère que la PME va être au centre des priorités politiques, puis ça ne sera pas dans une volonté de vouloir décider c'est qui les gagnants, mais de laisser nos entreprises nous faire gagner en les laissant, en leur donnant un petit peu plus de marge de manœuvre en baissant les taxes, parce qu'on est l'environnement, le pire environnement fiscal pour la petite entreprise au pays. Puis on a des règles et de la paperasse supplémentaire qu'il y a ailleurs. Là. Donc, baissons les barrières pour les laisser courir.
Oui, puis là, on voit, il y a quand même aussi des espèces de on a créé Éco-Entreprise Québec. Ouais. Le gouvernement du Québec se sentait investi là, de tout remodeler l'histoire du recyclage au Québec. Et là, ben, on crée quand même une structure qui est très lourde, qui peine à livrer ce qu'on doit livrer, c'est-à-dire s'occuper du recyclage. Et on envoie la facture au PME.
Oui, exact. Puis c'est souvent les gouvernements veulent faire ça en fonction publique. Ils veulent régler un problème, ils créent une structure, on crée un organisme. Éco-Entreprise Québec existait avant. Hein? Il était là, puis il gérait le recyclage. Puis même était contre la consigne dans le temps, avait travaillé très fort, puis avait monté Bac Plus, une coalition avec plusieurs entreprises, organisations. Puis il y avait eu une commission transpartisane, là, toutes les partis politiques, là, dans les années 2010, où il avait décidé de ne pas aller de l'avant avec l'élargissement de la consigne, augmentation du 5 sous, 10 sous, puis élargir ça à plus de produits. Pourquoi il avait décidé ça dans ce temps-là? Parce que c'était une fausse bonne idée. Le système actuellement là, pour le recyclage, le bac bleu, est financé par les entreprises. Il y a un système parallèle au niveau de la consigne, puis que tu t'en vas porter tes canettes
ça marche très bien d'ailleurs encore.
Oui, bien c'est ça. Mais c'est vous enlevez de la matière qui peut être vendue pour rentabiliser le système de recyclage. Parce que c'est les entreprises qui vont payer selon les produits qui vont avoir été retrouvés dans le bac.
Ouais.
Donc là, qu'est-ce que le gouvernement a fait avec cette mauvaise réforme? Si on voulait faire un cours de mauvaise politique publique, ce serait ça. Là. Il enlève de la matière rentable, notamment l'aluminium. Il élargit ça à plusieurs autres formats. Donc, on enlève de la matière, ce qui fait en sorte que ça coûte plus cher pour les entreprises qui utilisent le bac bleu. Puis après ça, on met en place un système qui n'est pas capable de répondre à la demande. On pitch ça d'entrée des citoyens qui se ramassent avec des canettes, des bouteilles de jus, de lait, etc. dans leur garage parce que ça prend 2 heures pour être capable d'aller faire consigner ton produit.
C'est ce qu'on a vu là, récemment. Là. 2 heures pour aller dans un centre de consigne.
C'est quoi? Il y a des line-up.
Il y a des line-up. Ils ne sont pas capables de gérer ça. Imagine-tu?
Moi, j'en ai un à l'autre bord de ma rue. Là. Je traverse la rue puis j'en ai un. Il y a tout le temps une file. Tout le temps une file. Genre, je vais y aller. Même à l'ouverture, il y a une file. Les petits commerçants là, qui veulent en avoir, il y a une machine sur deux qui est tout le temps brisée. Ça marche juste pas. Donc ça, tu l'enlèves, puis tu crées un système qui fonctionne pas. Puis après ça, ben, le gouvernement, il s'en lave les mains parce qu'il dit « Ben, c'est pas de ma faute, parce que j'ai envoyé ça dans la responsabilité des entreprises, puis c'est eux autres à payer puis à s'organiser. » Ben là, c'est pas vrai. C'est lui qui impose une réforme, qui est pas capable de faire en sorte de mettre les places disponibles pour faire la consigne à temps. C'est lui qui crée cette problématique-là. Puis il y a eu des explosions de coûts vertigineuses parce qu'en même temps, ils ont fait des investissements dans les centres de tri pour que le recyclage fonctionne bien. Donc, tu fais deux systèmes, tu enlèves de la matière, tu fais des investissements majeurs, puis tu pitches la facture dans le cours des petites entreprises. Là, la facture moyenne d'au-dessus de 70 %, j'ai des membres que c'est
d'augmentation,
encore plus que ça.
L'augmentation de 77 % moyenne.
Fait que là, nous autres, on s'est dit, bon, ben regarde, il faut trouver une solution. Là. Il y a du monde, des entrepreneurs qui nous appelaient à toutes les semaines. Là. C'est quoi cette affaire-là? Ça me coûte cher. Comment je vais faire payer la facture? Fait qu'on a envoyé une lettre pour leur dire, ben utilisez donc le fonds vert. Tu sais, je veux dire, on paye plus qu'ailleurs pour avoir un fonds qui investit dans les grandes entreprises ou les commissions scolaires. Ben pourquoi on diminuerait pas la facture des petites entreprises dans cette transition-là? On s'est fait rire d'en face.
Ouais.
On n'a même pas reçu une réponse à la lettre, puis le staff politique ont dit, ben voyons donc, on fera pas ça. Savez-vous c'est quoi la super bonne idée qu'ils ont eue?
J'ai aucune idée.
On va créer un prêt spécial. Puis on va demander à Investissement Québec de gérer ça, puis les entreprises vont pouvoir s'endetter pour être capables de payer une augmentation d'un régime qui fonctionne pas.
Hey, ça coûtait 300 millions.
C'est vraiment la grosse boîte.
300 millions. À 450 millions, puis on dit que l'an prochain, ça va coûter 800 millions, ce patente-là.
Ben ça, c'est transféré aux petites entreprises.
Là. Ben oui, puis la petite entreprise, elle a transféré ça à qui? Au client?
Fait que là, tu sais, admettons, je veux dire, toi, tu fais des légumes, puis tu mets ça dans une boîte pour envoyer, ben il faut que tu payes, puis là, ta boîte, elle va coûter plus cher. Puis là, à un moment donné, il faut que tu sois capable de la payer. Là. Mais j'ai des entreprises qui ont dit, moi, je suis juste pas capable de le faire. Je suis pas capable de payer ça. Moi, j'ai eu mes commandes par rapport à l'année passée. Puis là, j'arrive, puis j'ai une augmentation de 70 %.
Non, ça n'a aucun sens.
Puis après ça, ben, on se servir de bord, puis on dit, ben, la bonne idée, ben, on va leur donner une possibilité de s'endetter pour payer une réforme qui marche pas. Tu sais, je veux dire, tu mets en place deux systèmes parallèles qui se compétitionnent, qui enlèvent de la matière, puis après ça, le gouvernement, il s'en lave les mains en disant « C'est pas moi, c'est les entreprises, voyons donc. »
Hey, c'est un foutoir, hein? c'est un foutoir total, cette réforme-là du recyclage au Québec. Là.
Puis on a vu proche des frontières, là, tu sais, en Outaouais, qu'il y a des personnes en Ontario qui amènent leur canette ici parce qu'ils vont chercher 5 cents de plus. Ah ben oui, c'est sûr que ça peut exister, mais c'est pas vraiment problématique. C'est tout croche, cette réforme-là. Puis nous, on a demandé repousser ça. L'autre élément, là, c'est pas fini, là, parce qu'ils vont amener le carton, là, toutes les bouteilles en carton, ils vont
rentrer
dans
le compost. Ouais, c'est le début, c'est la phase 1 de cette histoire-là.
Fait que si vous avez des sacs de recyclage dans votre garage, là, attendez-vous qu'il y en ait encore plus, là. Puis non seulement ça, il va y avoir les bouteilles de vin.
Oui, non, ça vient. Ça...
Puis la SAQ ne veut pas reprendre les bouteilles
de vin. La SAQ,
hein?
Là, elle ne veut rien savoir de ramasser ses bouteilles de vin. Elle a dit, enfouissez ça, là, à un moment donné, là.
Ben non, ils vont transférer ça, ces petits détaillants.
Oui, exactement.
Nous autres, on n'est pas capable de gérer ça. On n'a pas l'espace, etc. On n'a pas le staff n'est pas capable de faire ça. Voyons donc, tu sais, je veux dire, ils vont nous envoyer la poubelle, là. Tu sais, ça n'a pas de sens. Nous autres, on a demandé dans la lettre, obliger la SAQ de reprendre leurs bouteilles. T'sais, ils ont le monopole pour vendre des bouteilles, puis après ça,
ils ramassent pas le scrap.
Ça, c'est les petits détaillants qui vont pas vendre de bouteilles de vin, qui vont être obligés de la reprendre. C'est du gros, gros, gros n'importe quoi.
Et en passant, là, la SAQ vous charge une consigne. Hein? C'est un
déjà?
Frais... Oui, c'est un frais caché.
La consigne va encore plus augmenter.
Oui, c'est exactement. Donc,
le gouvernement devrait retourner à la table à dessin.
Mais c'est un fiasco, cette affaire-là.
Aider à éponger l'augmentation qui est intenable pour les petites entreprises, repousser la mise en application, réévaluer les produits. Puis la meilleure politique publique qu'il aurait dû faire, là, c'est t'enlèves Recyc Québec, tu mets tout dans le bac. that's it.
Ben oui, mais c'est ce qu'on disait. On le disait, ça, à un moment donné, puis je sais pas qui, là, c'est-tu le ministre Charrette, là, dans sa grande illumination, là?
Non.
C'est la même gang qui voulait couper l'essence, là. À un moment donné, il nous parlait de 2030, 2035, les voitures.
C'est 2035, l'objectif, là?
Exactement. Là, ils ont repoussé parce qu'ils voient bien. Donc, c'est cette même gang-là, puis la taxe carbone aussi, ça pénalise nos PME, ça?
Ben oui. Puis là, nous autres, on se ramasse à payer des consignes sur tout, avoir un système qui fonctionne pas, avoir à faire la file pour aller porter nos canettes, puis à transférer la facture aux entreprises qui sont prises à la gorge, comme ça, se peut pas. Nous autres, on va pas lâcher le marchand, on va pas lâcher le morceau. On a envoyé des lettres, on a fait des représentations, puis on va continuer à faire valoir. T'sais, on n'est pas contre, là, mais on veut un système qui marche, là. Puis à un moment donné, tu peux pas pointer du doigt les autres puis essayer de faire atterrir une réforme tout croche. Là.
On demande, M. Vincent, y a-t-il des solutions sur le court terme pour améliorer la fluidité de ce service-là quand on va porter nos canettes et ces affaires-là? Parce que il y en a qui vont, mauvaise expérience, ça reste comme ça, puis là, on dirait qu'il se passe rien, on va devoir dealer avec cette histoire-là pendant des années.
Il faudrait qu'il y ait plus de place pour qu'on puisse aller les déposer.
Mais ça, ça devait
se faire. Le gouvernement aurait dû prendre ça en considération d'avance. Là. Si tu élargis d'une façon importante le nombre de volumes de produits qui vont aller être consignés, c'est sûr que ça va créer une demande. Après ça, ils ont repoussé parce qu'ils voulaient avoir comme 200 sites, puis il y en avait comme une trentaine, puis là, ils ont repoussé ça un peu. Puis après ça, ils ont dit, c'est la faute des organisations parce que dans le fond, c'est encore les entreprises là, qui gèrent ça, là, puis ils n'ont pas été capables de faire atterrir ça. Même les nouvelles demandes pour les entrepreneurs, les détaillants qui le mettent en place, et c'est rendu plus complexe qu'avant. Faut juste repousser ça, puis peut-être revoir juste à la base ce système-là qui marche pas là.
On dit qu'en Europe, on a fait ça en 20 ans, puis là, ici, on demande en 5 ans d'implanter un système de cette nature-là.
20 ans.
Ouais. Non, mais c'est. Il parlait aussi. En Colombie-Britannique, il y a des grosses cloches. Puis on devrait avoir la même chose. Puis on va essayer de mettre ça dans les parkings de la SAQ, etc. Puis c'est.
Mais la SAQ, elle faisait un lobby et voulait pas avoir ça. Hein? C'était des frais.
Je comprends. Puis là, ça a été repoussé, mais là, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, là. C'est quoi? Je n'ai pas le chiffre devant moi, mais c'est quoi? C'est 200 millions de bouteilles, là?
Oui, exactement.
Il y en a beaucoup, là. Ouais. Ben, je veux dire, du jour au lendemain, mettez ça consigné, puis là, tu le mets plus dans ton bac. Là, vous avez tout reçu à Noël, là, puis au jour de l'an, vous avez combien de bouteilles de mousseux puis de vin qui sont dans votre bac vert? Là,
ouais.
Ben, là, il va falloir aller faire la file puis aller porter ça dans un consigné-action, mais vous ne pourrez pas aller à la SAQ les reporter.
Non, exactement.
Ça vous ne pas.
Ils veulent pas les avoir.
On dit qu'on vise.
Ouvrir le marché et permettez aux entreprises qui vont prendre les bouteilles de pouvoir les vendre. T'sais. Mais non, ça tu peux pas faire ça.
On dit qu'on vise 90 % de récupération d'ici 2032, 1500 points de dépôt. Fait qu'il y a un objectif assez clair.
Et puis ça, il y a une patente. Là, on est en train de s'indiquer le monde de Consigne Québec.
En plus, ça va être très...
C'est complètement débile.
C'est sûr. Mais 1500, tu sais, je veux dire, même en... Tu sais, moi, j'habite en ville, mais en région, là, je veux dire, faut faire du kilométrage là, pour aller porter tes canettes, là.
Oui.
Fait que tu transfères sur les individus le fait de transporter les déchets plutôt que de gérer un système qui fonctionnait bien, le blague. Tu sais, oui, il y a eu des scandales quant au mauvais centre de tri, quant à la possibilité de vendre les matières, etc. Mais je veux dire, le verre, là, il y avait des débouchés, là. L'aluminium, il y a des débouchés.
Ben oui.
C'est ces matières-là qu'on retire du bac qui fonctionnait et qui permettait au bac d'être rentable. Ou de coûter moins cher aux entreprises.
Je pense que ça
pourrait gagner le prix de la pire politique publique mise en place par un gouvernement. Puis surtout qu'il y avait une commission qui avait été faite puis qui avait démontré que ça fonctionnait pas. Maintenant, bien, le lobby de Recyc Québec est très fort. Puis eux autres, ils voulaient avoir des parts de marché plus grandes. Puis ils considèrent que leur système fonctionnait mieux. Mais je veux dire, comment tu veux mettre une obligation comme ça? Puis deux systèmes parallèles qui se compétitionnent, mais pas pour la. Qui s'améliorent pas, là. Ça n'améliore pas les choses. Je pense que c'est pas. En tout cas, moi, j'étais outré, puis je le suis encore.
Ils sont pas impressionnants. Et là, c'est les audiences pré-budgétaires qui débutent. Là, on va avoir un budget au mois de mars du gouvernement du Québec. On s'attend à un déficit important. Vous allez participer. Qu'est-ce qu'on va faire valoir rapidement, une minute?
Ben que qu'on peut pas espérer que nos petites entreprises soient capables de faire plus que les autres si on a plus de taxes, plus de paperasse, plus de complexité. Qu'à un moment donné, il faut leur donner un petit peu de lousse. On a été capable d'investir des milliards de dollars dans des grandes entreprises. Ouais. C'est le temps maintenant de faire confiance à nos petites entreprises. Puis la première chose qu'elles vont faire, elles vont augmenter les salaires, rembourser leurs dettes, investir en automatisation et en amélioration de la productivité. Donc, si on veut rendre nos entreprises plus productives, si on veut créer de la job en région, si on veut augmenter le salaire des citoyens pour les aider à faire face au coût de la vie, ben c'est en baissant les taxes de nos petites entreprises. C'est ça qu'on va demander. On va réitérer le point, puis si c'est pas entendu dans le budget, ben on va s'assurer que ce soit dans les plateformes des partis politiques. C'est par nos petites entreprises qu'on peut assurer un avenir prospère pour le Québec, nos familles et nos régions.
François Vincent de la FCEI, vous êtes salué. Merci beaucoup.
Merci, bye-bye.
Bye-bye. Voilà, vous l'avez entendu.
Ah oui.
Écoute, ça fait des années là, que les PME disent, là, c'est à notre tour. Là, là Legault, lui, est allé investir avec Northvolt. Des grosses compagnies, des filières batteries, puis là, tout ça est en train de tomber.
700-800 millions qui tombent dans la poubelle.
Ah, des milliards!
Ah oui. Mais pour Northvolt, c'est 17-800, mais on va franchir le milliard, mais on peut parler de Lyon. On peut se lancer, Pierre, si tu veux. Puis concernant les consignes actions au Québec, on voit que ça a été tough à lever au départ. Puis il y en a qui nous écrivent concernant les consignes en Alberta, comment ça fonctionne, ça a l'air que ça roule numéro un. Mais c'est parce que c'est ça, on était prêt à le mettre, ce système-là, de base.
Oui, mais ça allait bien.
Ah, c'est ça.
Ils ont tout focaillé.
Ah oui, des épiceries. Non, mais il y avait-tu des line-up au IGA pour aller porter tes canettes?
Ça marchait. Ça marchait, tout allait.
Mais là, il fallait ouvrir des centres de dépôt ailleurs.
Ben oui, mais ils viennent taxer davantage.
Indépendant. Ben oui.
Hey, c'est 77 % de hausse. C'est la facture d'augmentation pour le que les commerçants doivent éponger. Là, je te l'ai dit, ça passe de 350 à 450 millions cette année et 800 millions l'an prochain.
Fait que tu penses qu'il va arriver quoi avec ta caisse de Pepsi puis ta montée de
l'huile,
tout ce que tu voudras, ton coke. Ça va monter, tu n'auras pas le choix de payer pour ça.
Les centres de consigne Québec ne sauvent pas parce qu'il y a un scandale, là aussi. Il faut gratter,
ouais.
Là. Allez gratter, journalistes.
Ah,
il y a du monde
là-dedans.
Qui se sont payés là-dedans. Là.
Parce que tu as des grandes surfaces qui ouvrent. Il y en a un à Lévis, mais je trouve qu'on n'ouvre pas vite.
Non, on n'ouvre pas vite. Ça devait être plus rapide que ça.
Parce que bien souvent, tu vas là un samedi puis c'est le bordel.
Voilà. Donc, ça va être un dossier, ça, à suivre le rescapé. Tu sais, on va être plus fin que tout le monde, hein?
Non, oui.
Puis là, on ralentit parce que nos PME, là, face à l'Ontario, aux autres provinces, face à d'autres PME qui arrivent de partout dans le monde, nous autres, ils n'ont pas ces frais-là complètement indécents, là.
Ils regardent le listing, ils font « tabern, stock à payer ici ».
Taxe carbone qui ralentit aussi parce que ça, c'est des frais aussi que tu ajoutes dans la facture. Mm-hmm. Là, tu envoies ça aux clients. Les clients, c'est nous autres, en passant. Fait que là, tu dis l'inflation, ben oui, c'est ça.
Tu contribues pas pire.
Pas mal. Voilà. Hey, après la pause. Jérôme Blanchet-Gravel débarque de Libre Média. On va parler du Venezuela, de tout ce qui se passe autour, les pions, le jeu de domino. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi la suite? Là, on a Maduro, mais qui sont les prochains? On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto.
Okay.
418-670-9098.
Visa. Radio X, Montréal. Live.
Hey, on a du gaz naturel à profusion dans la vallée du Saint-Laurent. Pourquoi qu'on saute pas là-dessus pour s'enrichir collectivement comme société de manière intelligente à respecter les règles. Au lieu de dire « Oh non, nous autres, on est propres, on est fins, on est plus fins que les autres. » Calique. Faut s'enrichir comme société. Le discours que je veux, là, d'indépendance, c'est ça. Let's go, on se développe.
Morée live.
Lundi au vendredi, 6h.
Radio X.
Présenté par Multiconfort FP. En janvier, épargnez 15 % sur l'installation de votre nouvelle thermopompe et obtenez 6 mois sans paiement ni intérêt sur certains produits. Multiconfort FP à Québec et Victoriaville.
Le Fonds de solidarité FTQ, c'est plus de 800 000 épargnantes et épargnants qui se disent
« Lâche pas, moi je sais où je m'en vais. »
Qui se tiennent debout, qui épargnent pour leur retraite ici parce qu'ils
« Lâche pas, j'attends pas de crever. »
Pour que nos entreprises restent solides, que nos jobs restent ici, parce qu'ils...
Lâche pas, moi je sais où je m'en vais.
Et c'est seulement en investissant en nous qu'on pourra réussir.
Je lâche pas.
Au Fonds de solidarité FTQ, on lâche pas, puis on se lâche pas.
À la recherche de camionneurs, publiez vos emplois sur camionneurs.ca et rejoignez les meilleurs chauffeurs de votre région. À la recherche de mécaniciens, publiez sur mécaniciens.ca et trouvez le candidat idéal en mécanique. Camionneurs.ca et mécaniciens.ca, simple de même depuis 2003.
Envie de reprendre de saines habitudes? C'est le temps d'essayer Mon Club Avantage. Tennis, gym, spinning, workout, yoga, badminton et bientôt du pickleball.
Au Club Avantage Multisport, on a votre santé à cœur depuis 46 ans. Clubavantage.ca.
Qu'est-ce qu'on mange pour souper?
L-U-D-O, Ludo!
La pizza congelée au vrai goût de resto. Essayez notre sauce à spag fait d'ingrédients frais. Dispo chez les marchands participants. Pour un repas réussi,
c'est L-U-D-O, Ludo!
Ludo, décongeler, cuire, servir.
X. News.
Here is the news.
Le pharmacien et ex-PDG de la Chambre de commerce du Québec, Charles Milliard, a annoncé ses intentions hier concernant la succession de Pablo Rodriguez à la direction du Parti libéral du Québec. Il devient ainsi le premier candidat en liste pour la course à la chefferie du PLQ, qui débutera officiellement le 12 janvier avec un couronnement prévu le 14 mars. Pour l'instant, Charles Milliard est le seul candidat officiel à la chefferie du PLQ. Arrestation et perquisition hier sur la rue Lessard à Loretteville à la suite d'un appel logé au 911 pour désordre par un voisin. Une fois à l'intérieur du logement, les policiers ont arrêté un homme de 36 ans après la découverte d'une arme de poing. Mais c'est lors d'une deuxième fouille de l'appartement que les policiers ont découvert des munitions de calibre 45, des fusils à air comprimé, mais aussi 20 grammes de cocaïne, 500 comprimés de méthamphétamine et 200 grammes de médicaments d'ordonnance. Le suspect comparaîtra aujourd'hui au Palais de justice de Québec.
News.
Radio X.
Couture.
Et là qui veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez-vous.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio X.
Ouais, ben c'est officiel, Charles Milliard qui se lance dans la course au Parti libéral du Québec. Ça vient d'être annoncé ou c'est en train de se faire, là, tranquillement, pas vite.
Il a publié une vidéo ce matin pour annoncer ça sur ses réseaux sociaux.
Voilà. Donc, ça va faire jaser beaucoup. Notre invité, je voulais lui parler parce que, vous voyez, là, ça brasse pas à peu près en Amérique du Sud. D'ailleurs, il revient d'une tournée, il est allé en Argentine faire des grosses entrevues. Mm-hmm. Et, Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel, comment ça va?
Bonjour, monsieur, ça va très bien. En début d'année, bonne année à toi. Ben, nos auditeurs.
À toi aussi, mon cher.
Oui. Comment tu vois ça? Tu arrives d'Argentine. Les Américains ont donné beaucoup de financement. Hein. Il y a eu quand même des grosses sommes à louer. Je pense que les Américains reprennent contrôle du continent.
C'est leur intention, du moins.
Ouais.
Leur intention.
Comment tu vois ça avec Venezuela? On est allé chercher Maduro. Les gens qui sont là en place, là, la vice-première ministre, je pense que la vice-présidente a quand même des accointances assez solides avec le régime Maduro.
Ça va prendre des semaines, voire des mois, voire peut-être des années, dégager tous les éléments du régime. Donc, beaucoup d'incertitudes sur place. Donc, d'abord, il faut le dire, ceux qui se réjouissent le plus de la chute de Maduro, ceux qu'on voit, là, les images, c'est des Vénézuéliens de la diaspora.
Donc sont dans les expatriés. Villes, là,
exactement. Ouais. Donc, qui ont subi le régime, qui ont dû quitter suite à une situation économique catastrophique, peut-être des dissidents politiques. Donc, c'est sûr que ces gens-là sont, disons, à 99 % là, peut-être, disons, à 80 là, % des gens qui ne soutiennent absolument pas Maduro, donc qui se réjouissent de sa chute. C'est des gens qu'on voit à Miami, à Buenos Aires, en Colombie, il y en a beaucoup.
En Europe.
Il y en a au Chili, ouais, il y en a partout, des Vénézuéliens. Ouais. Finalement, il y en a à Montréal.
Ouais.
Donc, les images qu'on voit de gens qui se réjouissent, ce sont les Vénézuéliens de la diaspora. Sur le terrain, moi, mes sources m'indiquent que les gens sont prudents. Pourquoi? Justement parce que tous les éléments du régime n'ont pas été dégagés. Il y a encore effectivement une police secrète.
La police secrète.
Très forte, très efficace, celle de Maduro. Donc, la première réaction que ça a été sur le terrain, non pas de fêter. Donc, il y a eu plusieurs images fausses qui ont circulé. Bon, les gens qui applaudissent du haut des immeubles, pas tout à fait vrai. C'est d'autres villes ou même des montages. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas contents. Je pense que 80 % de la population vénézuélienne, disons 70, est très, très heureuse de voir peut-être un changement de régime en cours. Mais les gens sont prudents, ils ne veulent pas être identifiés par justement ces agents du régime qui sèment la terreur depuis des années. Donc, sur place, c'est la prudence. Ça a même été un réflexe un peu de confinement. C'est-à-dire les gens, en premier temps, voulaient aller chercher de la bouffe, sont allés à l'épicerie. ont voulu s'approvisionner aussi en essence. Donc, sur le terrain, c'est une sorte de calme, là, c'est-à-dire un calme plat.
J'imagine aussi que le régime, là, laissait peut-être entendre que les Américains allaient bombarder. Donc, les gens se sont dit, on va aller aux abris, là, tu sais.
Oui, c'est un bon point.
Pour essayer de les contrôler encore mieux, là.
Donc, c'est pas la fiesta.
Non, c'est ça.
Exactement, là, c'est pas les scènes de libération suivant la libération de la France, là, en 1945. Là. C'est pas exactement ça. Donc, beaucoup d'incertitudes. Effectivement, la vice-présidente doit... finalement, obéir aux Américains qui envoient un message très clair. C'est une onde de choc en Amérique latine pour écoutez, être Gustavo Petro, par exemple, être le président de la Colombie actuellement. Moi, j'aurais peur à sa place. D'ailleurs, il a même lancé une sorte de défi à Trump. Il l'a dit le jour suivant qu'il vienne me chercher moi aussi. Je pense que ça, c'est une erreur. Donc, être dans les culottes de M. Petro ou dans celles de Díaz-Canel, le président de Cuba, je serais assez inquiet, honnêtement. Le message, écoutez, c'est une onde de choc. C'est énorme, ouais. Ce qui s'est passé, c'est surréaliste.
Là, je regarde les prix du pétrole. Aujourd'hui, ça baisse. Et là, ce qu'on comprend, c'est que ce pétrole-là, je voyais les statistiques, en 1967, 10% de la production mondiale venait du Venezuela. Aujourd'hui, c'est 1% seulement. Mm-hmm. Donc, ce régime-là a complètement anéanti son industrie pétrolière. Pourquoi? Je ne sais pas, on a appauvri le peuple aussi. Repartir la machine, ça va prendre des milliards. C'est un pétrole très lourd, très difficile à raffiner. Donc, ça va demander des investissements et du temps. C'est pour ça que les marchés aujourd'hui, là, hier, les stocks pétroliers canadiens ont baissé, mais là, ça va remonter parce que je pense que ça va être des années aussi de travail. Et ce qu'on voulait du côté des Américains, c'est parce que les Chinois étaient rentrés. Là.
Oh oui.
Il y avait une délégation chinoise, je pense, la semaine dernière, qui était là. Donc, les Chinois, autres, voulaient mettre la main sur le pétrole, faisaient de plus en plus des affaires avec le régime de Maduro. La Russie...
La Chine gagne du terrain en Amérique latine.
Ouais.
L'intention de la Maison-Blanche est très claire. Donc, reprendre, finalement, la zone d'influence naturelle des États-Unis depuis la doctrine Monroe, hein, cette fameuse doctrine qui faisait de l'Amérique latine la cour arrière des États-Unis. Quelque chose qu'il faut dire aussi de très important, le récit selon lequel... Le Venezuela était devenu un chaînon important dans le trafic, dans le narcotrafic international, est un récit mensonger. Là, il faut le dire clairement, c'est un alibi stratégique de Washington. On le sait, le Venezuela n'est pas devenu plus important que le Mexique ou la Colombie dans l'approvisionnement de la cocaïne aux États-Unis. C'est entièrement faux. Donc, cette mise en scène-là, finalement, qui vise à associer Maduro à un narco comme, par exemple, El Chapo Guzman, là, le fameux narcotrafic. C'est ça, on est vraiment ici dans la mise en scène, dans le théâtre. Donc ici, il faut le dire, les Américains usent d'une stratégie, disons, assez malhonnête. C'est un peu un classique. Donc,
on l'avait fait en Irak aussi, hein, pour rentrer en Irak avec les armes de destruction massive.
Oui, c'est une sorte d'arnaque, là, d'une certaine façon, sur le plan du discours. Après, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, que les gens ne sont pas contents. C'est-à-dire Maduro est un dictateur, un criminel. C'est quelqu'un qui a fait emprisonner un nombre important de prisonniers politiques dans la fameuse prison à Caracas, Helicoïdée. Une espèce de grande prison circulaire où les gens sont torturés à gogo. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui devait dégager. C'est très important. Là, il fallait entamer cette transition-là. Mais c'est sûr que les Américains, balancent la sauce pas à peu près. Là,
ouais. l'Argentine, on sécurise l'Argentine. On sécurise le Venezuela. On va peut-être ramasser Cuba. La Colombie demeure quand même. On a le Chili. Il reste le Brésil, peut-être aussi, parce que...
Oui, très à gauche, actuellement,
Lula. Les BRICS, n'oubliez pas les BRICS.
C'est ça, oui, le Brésil est un morceau très, très important. Première économie d'Amérique latine. Bon, il y avait Bolsonaro, sur qui il pouvait compter les Américains il n'y a pas si longtemps. Mais c'est sûr que oui, il faut voir ça à l'échelle globale, à l'échelle de l'Amérique latine. Panama aussi est un enjeu, avec le canal qui a été cédé par les Américains. C'est vraiment une erreur
stratégique. Trump a dit qu'il voulait le reprendre, là.
Oui, c'est ça. Il faut bien comprendre, la Chine gagne du terrain en Amérique latine. Elle construit même des canaux alternatifs au canal de Panama, là. C'est-à-dire, elle gère un méga port au Pérou. C'est-à-dire, sa présence est vraiment tentaculaire et les Américains, évidemment, n'aiment pas ça. Et avec Trump, ils se sont dit, non, là, c'est le temps de contrecarrer cette influence-là. Moi, je pense qu'on a quand même, tant qu'à avoir un empire dans la région, aussi bien avoir les Américains que les Chinois...
Après, ben là, ça dépend qui tu veux danser. Moi, je ne danserai pas avec les Chinois.
C'est ça,
dire,
bon,
là,
c'est...
Je le dis à tout le monde ici, là, puis ceux qui veulent l'entendre, là, moi, je vais truster davantage les Américains que les Chinois.
Le régime,
si là, tu me demandes à qui je veux danser ce soir, là, je danse avec les Américains. Je ne danserai pas avec les Chinois.
Ben, écoutez, moi, ça serait effectivement aussi mon choix plus naturel, pour des raisons évidemment d'affinité culturelle aussi, etc. Après, c'est sûr que Trump s'est auto-couronné empereur des Amériques. Là, donc,
Je ne danse pas avec Trump nécessairement.
Non, c'est pas ça que je veux.
Je danse pas avec les Américains.
Donc, mais la game, c'est ça. C'est une game qui est géopolitique, celle de contrecarrer la Chine. Moi, j'étais récemment aussi à San Salvador, au Salvador. Et tu vois, j'étais très, très surpris de voir la grande bibliothèque dont ils se vendent tant, là, la très moderne. C'est un cadeau de la Chine. Donc même au Salvador, où le président Bukele est censé...
le monde, là.
Ah non, c'est très concret. Là. La Chine vraiment avance très, très rapidement en Amérique latine. Et ben, c'est un problème dans la mesure où aussi elle importe aussi un modèle qui n'est pas celui qu'on veut non plus. C'est-à-dire, évidemment, c'est le modèle...
Ben, c'est le Parti communiste chinois.
Après ça, très pragmatique. La Chine, c'est beaucoup, bon, pression économique plus qu'idéologique. Mais reste qu'on ne veut pas nécessairement que la Chine exporte son modèle une fois qu'elle aura établi ses bases économiques. Donc, un modèle qui est encore autoritaire, etc. Bon, on va dire Trump est autoritaire, oui. Ça dépend dans quel dossier. Mais il faut vraiment, c'est ça, il faut voir ça large, hein, c'est-à-dire Trump...
C'est de la géopolitique à grande échelle.
C'est ça, il y a un partage du monde aussi, c'est-à-dire là, Trump, c'est très, très amusant parce que nos grands analystes ici géopolitiques disaient « Trump, c'est l'ami de Poutine ». Ouais, mais Trump a dégagé le seul véritable allié de Poutine des Amériques, là, à part le président cubain.
Non,
le Venezuela, c'est l'allié de la Russie. Trump le dégage. Après, est-ce que ça coïncide avec un partage du monde, c'est-à-dire les États-Unis ont les Amériques, les Chinois ont leur zone évidemment en Asie, peut-être est-ce que ça veut dire pour eux de reprendre Taïwan, la question qu'on se pose. Donc ça coïncide peut-être avec un retour des empires, des zones d'influence naturelle des empires.
Ça donne-tu une kick au droit international, justement, là? Le lancement de cette histoire-là?
Parce que l'ONU va s'en mêler, l'ONU va dénoncer... Ce coup
d'État externe.
Oui, puis bon, il va y avoir un veto américain, puis on la connaît, l'histoire.
L'ONU
n'a
pas de
pogne là.
Non.
Mais quand même, c'est stratégique aussi, parce que la Russie, le pétrole, c'est sa ressource. Là, on va chercher le pétrole vénézuélien. Mm-hmm. On va faire baisser les prix éventuellement dans le monde. Donc, pour la Russie, moins d'argent qui rentre. C'est
peut-être une manière, effectivement, d'assécher l'approvisionnement en pétrole de la Russie, mais tu disais tantôt que c'est un pétrole très, très lourd.
Oui.
C'est ça.
Bon, ça va prendre peut-être des années, mais on s'assure quand même de garder le contrôle sur la ressource. C'est 19% de la ressource mondiale, le pétrole du Venezuela. Donc, quand même, il y a là quelque chose de très intéressant où la Chine l'avait vu, les Russes l'avaient vu aussi, là, dans le cours arrière. Cuba pourrait, est-ce que ça pourrait tomber?
Oui, je pense que le fruit est mûr pour Cuba. C'est un régime vraiment en fin de vie. L'essoufflement est total. On sait, écoutez, juste les taux de prostitution à l'avant, c'est incroyable. Il y a beaucoup plus de prostitution.
Il y a des maladies. Il n'y a plus de médicaments qui rentrent là. C'est terrible.
Hein, il y a plus de prostitution actuellement qu'autant des casinos américains. Donc, tu sais, c'était ça le discours au début. Là. Ouais. Les Américains viennent finalement coucher avec nos femmes. C'est à peu près le discours.
Mais Al Capone, ça, je parlais avec Maurice ce matin.
C'est un peu vrai aussi. Là,
mais... les mafieux américains avaient toutes des maisons à Havane.
Là, mais c'était beau, la Havane, dans ce temps-là.
Oui.
Et puis la Havane qui est beau, qui reste encore, c'est celui-là. Écoutez, il y avait des planchers en marbre qui donnaient sur le Malecón. C'est incroyable, la Havane. Écoutez, les édifices qu'il y a là. C'est un désastre incroyable. C'est un drame moral, un drame économique. Donc, le fruit est mûr pour Cuba. Là, vraiment, dans le cas de Cuba, moi, je serais d'avis, là, vraiment, sur le plan personnel, qu'il faut, il faut vraiment faire le ménage. Parce que là, les Cubains n'en peuvent plus depuis les années 90, depuis la chute de l'Union soviétique. Ils n'en peuvent plus. Ils recyclent des canettes pour survivre au jour le jour. Écoutez, ça n'a aucun sens.
Non,
les gens
ne mangent
pas.
Tu vas à Cuba, tu vas te promener à La Havane, t'as une porte qui s'ouvre. C'est une femme qui t'offre ses enfants pour la prostitution.
Oh oui, non.
Mais non,
on est là.
C'est quoi ça?
Ça se particularise.
Non, c'est dégueulasse. Et je pense pour Cuba, l'avenir, peut-être plus du côté américain ou en tout cas que du côté du socialisme. Là.
Oui, bien écoutez, je pense que les peuples, d'abord, actuellement, qui crèvent de faim, préfèrent une tutelle une américaine que crever de faim. Je veux dire très simplement. Donc, actuellement, il y a beaucoup de gens dans l'Amérique latine qui réfléchissent pas de manière idéologique. Ils se demandent pas s'il faut participer à la marche de l'histoire, etc. Ils se demandent est-ce que demain matin,
je vais pouvoir manger. Oh, oui.
Est-ce que je vais pouvoir acheter du Tylenol ou des couches même, là? Écoutez, on est là, Cuba.
Il n'y a plus rien.
C'est une affaire de. Je vais avoir du shampoing en fin de semaine.
Non, oui, la grosse base.
Non, même pas. Écoute,
ça dépend s'il y a un touriste qui t'en apporte.
Oui, c'est ça. Moi, ce que je faisais là, à l'époque, quand j'allais à Cuba avec un de mes chums, on se louait des petits scooters, puis on allait porter des brosses à dents, de la pâte à dents, des choses très, très, très de base qu'ils n'ont pas là, dans leur quotidien. Là.
Donc, la grande. C'est double. D'un côté, les Américains, forcément, imposent leur pouvoir, leur empire, mais d'un autre côté, oui, les gens veulent attendre ça d'une certaine façon, du moins à Cuba, ça c'est sûr, au Venezuela aussi. Donc, est-ce que les Américains vont être assez honnêtes, finalement intègres, en tout cas, entre guillemets, pour laisser finalement, au moins en grande partie, ces peuples-là se diriger une fois qu'ils vont avoir dégagé les régimes problématiques? C'est là. Moi, j'espère que les Américains vont laisser cette latitude-là aux Vénézuéliens, aux Cubains. Après, la question du financement, ils vont toujours être là, les Américains en Amérique latine.
Mais y a-t-il les Chinois aussi qui peuvent être présents, des antennes à Cuba?
Ah oui, non, les
apparemment,
Chinois
ils sont revenus assez fort.
Quand même,
Oui, ils sont pas loin.
C'est ça.
Ça, c'est la question. Comment les Chinois vont-ils réagir quand même à leur dégagement? Ils sont été expulsés d'Amérique latine, là, d'une certaine façon. Ah, mais après, ça va prendre du temps.
Ouais.
C'est très compliqué au Chili et plusieurs pays, là.
Oui. On dit que le régime cubain aussi, toute la manière dont on contrôle le peuple, hein, avec le rationnement...
L'électricité, 5 heures d'électricité par jour.
Bien, le Venezuela a copié ça, là. Le Venezuela a copié tout ce que le régime cubain faisait subir à son peuple. Bien, le Venezuela a fait ça dans les dernières années.
Écoutez, ils devancent même Noël, pour faire oublier aux gens tellement ils vivent dans la pauvreté. Ils devancent Noël, toutes les techniques sont bonnes. C'est-à-dire, écoutez, devancer Noël pour essayer de mettre les gens dans l'esprit des fêtes, leur faire oublier qu'ils ne mangent pas à fin de semaine et la semaine non plus. Non, c'est très grave. Écoutez, là, Venezuela, fallait que ça tombe. Après, c'est ça.
D'après moi, il y a une feuille de route. Et si on ne respecte pas la feuille de route américaine, ben il va y avoir des conséquences. Trump l'a dit. La suite des choses, là, je regarde au niveau des médias ici. Comment expliquer qu'on vante Maduro dans certains articles de Radio-Canada, l'homme du peuple, alors qu'on sait très bien ce qu'il a fait subir à son peuple? C'est dégueulasse.
Ça, c'est une dépêche de l'AFP. Bon, oui,
mais il y a quand même quelqu'un qui a décidé qu'on le publiait.
Oui, je sais. Il y a un déficit aussi actuellement au Québec d'intelligence sur la géopolitique dans les grands médias, du moins. Là, les médias alternatifs commencent à prendre le relais. Mais on suit beaucoup aux agences de presse, on les copie, puis finalement, on n'est pas capable du texte.
Là.
Non, c'est ça, on développe peu, finalement, notre propre lecture d'actualité internationale hors des médias traditionnels. Donc, écoutez, ben d'abord, je comprends pas cette gauche-là. D'abord, si vous êtes à gauche... vous êtes contre. C'est contradictoire. On ne les comprend plus. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, d'un côté, ils disent Poutine, c'est l'ami de. Trump, c'est l'ami de Poutine, mais là, Trump, il vient de dégager l'ami de Poutine des Amériques. Mais on aime Maduro, même si c'est l'allié de Poutine.
Ouais. Donc, mais là, on parle du gros cochon sale. Là.
C'est ça.
Hein? aussi, cette dérive.
Donc, vous voyez, c'est pas cohérent. Là, ils suivent pas vraiment.
Cette dérive des médias subventionnés qui.
Là, ils se retrouvent à défendre l'allié de Poutine, tout simplement. Là. Les grands médias se redoublent.
Ils sont durs à suivre.
À demi-mot, ça dépend des textes. Mais ils savent pas trop, en fait, puis ils connaissent peu.
Mais c'est une méconnaissance, parce que, tu sais, je veux dire, on le voit, là, la droite est devenue l'extrême droite. On n'est pas capable d'avoir un échiquier politique gauche-centre-droit, là. On associe Éric Duhem à l'extrême droite, là. Tu sais, faut être mêlé.
Donc, c'est là qu'on parle de loin, là.
Non, mais je veux dire, moi, le Parti conservateur du Québec, c'est du centre. Il n'y a même pas de droite là-dedans, là. Mais il y a un travail à faire. On devra se ressaisir collectivement. Ces médias-là qui sont en fin de vie, on les subventionne et là, on va continuer à subventionner quoi des mauvais.
Maintenant, ils sont pas bons. Écoutez, je les suis pour vraiment suivre. Je pilote un média, moi, vous savez, bon, Libre Média. Je les suis pour suivre leur évolution, savoir comment nous se positionner par rapport à ça, tout ça.
C'est divertissant.
Ils sont pas bons.
Mais je pense qu'ils sont bons dans les affaires locales puis des petites choses, pas trop compliquées.
Peut-être dans les vaches égarées en Mauricie tout ça, mais. Il y a un déficit de talent aussi. Je ne veux pas être hautain, mais écoutez... Là,
on travaille pas ces dossiers.
Les réflexes sont pas bons. Toujours les mêmes experts qui sont interviewés. C'est la chaire Raoul d'Endurant. T'sais, écoutez, là, ça fait 50 ans. Là, je sais pas si ça fait 50 ans qu'elle a été
fondée. Pro-démocrate, là.
Non, mais c'est toujours les 3-4 mêmes personnes, finalement, là, à Radio-Canada. Il faut en sortir de ça. Il faut aller parler à des gens aussi sur le terrain.
Parce qu'il manque la projection de s'élever au-dessus de Trump. Dire Trump, là...
Mais il faut de la morale.
Oui, non, c'est ça.
Trump, ils sont pas capables de sortir de la morale, donc ils sont pas capables de voir le tableau global.
Surtout
de
où
pointer.
Les États-Unis s'en vont là, dans les prochaines années. Là. C'est ça qu'il faut garder.
Ah, c'est de la morale. C'est-à-dire, donc, si tu fais de la morale, tu n'as pas de l'analyse. Là. Donc, ils n'en sortent pas de ça.
Ouais, l'analyse, il s'en fait à Libre Média.
Oui, beaucoup. Là, actuellement, avec le Venezuela, on a eu plusieurs textes. Je pense que ça va tarder. Samedi, on était pas mal le premier média au Québec à publier une analyse de fond hors d'une agence, ouais. Là, c'est-à-dire qui n'est pas tirée d'une agence.
Vous étiez là.
À 11h samedi matin, à Libre Média, on avait un article de fond avec une journaliste vénézuélienne qui nous expliquait vraiment ce qui se passait là-bas. C'était à 11h le matin. Donc, on est réactif, on est vite. Je travaille beaucoup, ma femme me le reproche, mais que voulez-vous?
Ouais. Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef, t'es éditeur aussi de Libre Média?
Oui, rédacteur en chef de Libre Média. Ouais, éditeur en chef parce que, bon, c'est un journal en ligne.
Ouais, les gens peuvent s'abonner?
Ils peuvent s'abonner, idéalement, oui. C'est 3-4 $ par mois, écoutez. Pour une 60. Plus que 60 contenus par mois, plus la chaîne YouTube aussi qui est rendue à 42 000 abonnés, je pense. On prépare un documentaire sur l'Argentine de Milley, on vient de l'Argentine. On va voir ça dans quelques semaines.
Ça, c'était capoté. Vous avez accès quand même au pouvoir argentin.
On a eu le mentor économique de Milei, le fameux Benegas Lynch. On a rencontré des gens importants. Oui, à Buenos Aires. J'ai fait quelques télés aussi, moi-même. Ça a créé quelques polémiques. Je ne m'attendais pas à ça.
Ouais, ben sur,
enfin, peut-être je m'y attendais un peu.
Sur le droit de mourir.
Oui, il y a ça. Ça les choque. Ça les fascine, hein, d'une certaine façon. Les Argentins, cette aide médicale à mourir, hein, dont on est rendu des champions déjà.
Le tango argentin, l'architecture.
J'ai beaucoup d'aimé. Buenos Aires, c'est fort, très, très, très fort. C'est très italien. Vous savez, il y a beaucoup d'immigrants italiens en 19e siècle. Je pense qu'il y a 2-3 millions. C'est très italien. Donc, c'est formidable. Puis Buenos Aires, c'est à voir. Moi, ça faisait longtemps. Je voulais
mon fils est allé l'an passé. Puis là, mon fils est au Chili, actuellement, avec ses chums.
Ah oui, OK. Autour de l'Amérique.
18 ans.
Ah oui?
18 ans.
Il y a un nouveau président aussi, Cast, oui. Dont on a parlé, où c'est les Oasia.
Oui. Les autres sont sur la plage puis ils fument des cigares. Là. Hier, ouais. Il m'a envoyé une photo, il fumait son cigare sur la plage.
Pas préoccupé par...
Tout va bien.
C'est vrai que depuis... c'est stable.
Villa del Mar, c'est une espèce de... Ben écoute, c'est la côte ouest d'Amérique du Sud. C'est magnifique, c'est magnifique.
Aller voir ça, c'est incroyable.
Il y en a des pays, il faut sortir un peu quand même.
Oui, oui, exactement.
Sortez du dôme, là.
Oui. Il y a beaucoup à voir.
Jérôme Blanchet-Gravel, toujours un plaisir de Libre Média. Et, écoute,
oui, un plaisir, partagé, oui.
On remet ça, comme on dit. Après la pause,
yes.
On ouvre les lignes. Là, Charles Milliard, est-ce que c'est l'homme de la situation?
Mais il a annoncé officiellement sa course à la chefferie au courant des dernières heures. Ça a été annoncé publiquement avec le Parti libéral du Québec. Croyez-vous en Charles Milliard? Croyez-vous en Charles Milliard pour peut-être même être le premier ministre du Québec? Est-ce que ça va renverser la vapeur? Puis le PLQ va remonter dans les sondages? Parce qu'on a eu une descente aux enfers dans les derniers mois, on se comprend.
Les autres, ils ont une job à faire. Puis t'as Éric Duhaime qui, lui, va annoncer des candidats. Donc, le Parti conservateur d'Éric Duhaime monte. Pour qui allez-vous voter? Mais... comment on voit la dynamique? Moi, personnellement, je vois un gouvernement minoritaire. Moi, je pense qu'on s'en va vers un gouvernement minoritaire. Les Québécois ne voudront pas donner les clés du classeur au PQ. On va être un petit peu... on va être ses breaks, je
absolument.
Pense. Je
absolument.
Pense.
Fait qu'on va demander aux gens de nous jaser de ça au retour de la pause. Appelez-nous au 88-670-9098. Fait qu'on va ouvrir les lignes.
On revient.
Yes, sir.
Couture dans le mid. Radio X.
La guignolée du Dr Julien à Lévis se poursuit jusqu'au 15 janvier. C'est le moment de donner pour aider tous les enfants vulnérables à grandir en santé. Et pour pouvoir les soigner comme il le faut, vos dons sont essentiels. À Lévis, plus de 1200 enfants peuvent bénéficier de services gratuits de pédiatrie sociale en communauté. Jusqu'au 15 janvier, pour donner et aider les enfants de notre région, cliquez pédiatrie-sociale-lévis.com. Merci de contribuer à donner de meilleures chances aux enfants.
Jusqu'à dimanche 17h, Matelas Dauphin prolonge ses soldes d'après-Noël. Tous les matelas Dauphin sont réduits de 50 % Oui, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à 50 % de rabais. Profitez de la prolongation des soldes d'après-Noël, dont tous les matelas Dauphin.
Capsule.
Radio X.
Cibaud Électrique est à la recherche d'électriciens résidentiels. Il paye commercial plus 5$ de l'heure. Aïe aïe, c'est Cibaud. Donc, si t'es électricien et que tu fais du résidentiel et que tu veux gagner plus cher que tous tes chums, applique chez Thibault Électrique au 418-847-3243. Du 5 au 25 janvier, le rabais météo est de retour chez Ashton. Plus de 100 000 $ en prix à gagner, tels qu'une location de voiture, un forfait voyage, une piscine et plus encore. Merci à nos précieux partenaires. Ashton, frais, vrai. Le Monster Spectacular est de retour au Centre Vidéotron de Québec le samedi 30 mai prochain. Le spectacle familial par excellence mettant en vedette Monster Truck, Freestyle Motocross, BMX et bien plus. Billets en vente sur Ticketmaster.ca. Venez profiter de nos soirées hockey à l'un de nos restaurants Trois Brasseurs des Galeries de la Capitale ou de Grande Allée. Pour une expérience hockey ultime, on se rejoint entre amis aux Trois Brasseurs. Bon plat et bonne bière brassée sur place vous attendent.
Du 5 au 25 janvier, le rabais météo est de retour chez Ashton. Plus de 100 000 $ en prix à gagner, tels qu'une location de voiture, un forfait voyage, une piscine et plus encore. Merci à nos précieux partenaires. Ashton, frais, vrai.
Les Tourneaux Services de pneus Next Drive et Napa Auto Pro présentent le Salon Autosport XPN Québec du 1er au 3 mai au Centre de Foire d'Exposité. Les inscriptions se déroulent du 1er au 31 janvier sur autosportquebec.com. Tu possèdes un hot rod, un muscle car, une voiture importée, exotique, une moto, un VTT, une motoneige, un tracteur de vanne ou une voiture de sport motorisée? Inscris-toi maintenant sur autosportquebec.com. Collaboration Radio X et Télémag.
Couture.
Pierre a livré la marchandise.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture.
Pierre a réussi.
Et Nick Cloutier.
Les chiffres le prouvent.
Radio X.
Ouais, bon, on ouvre les lignes. Charles Milliard qui se lance à la course au Parti libéral du Québec. Est-ce qu'il va y avoir une course?
Ben c'est ça la question aussi, là, parce que les adversaires, je te parlais de Guy Cormier, mais c'est des oui-dire, il n'y a pas de Guy Cormier va se présenter, ça c'est l'ancien grand boss de Desjardins, ouais. Pour les gens qui ne savaient pas.
Son nom circulait aussi pour la CAQ. Ouais. Tu sais, quand, à un moment donné, là, on avait évoqué des candidats potentiels pour remplacer François Legault.
Ouais, je me souviens
Guy
de
Cormier
ça.
Guy Cormier était là.
Ouais, absolument.
Puis, il est-tu à tout ou...
Ben, je sais pas, c'est peut-être plus des rumeurs que d'autres choses, parce que c'est des noms qui sont in.
Ouh, pas de fumée sans feu, Jordan.
Ah, t'as raison.
Dans ce monde-là, là.
Fait que, comme tu l'as dit, c'est confirmé, l'ex-président de la Fédération des chambres de commerce du Québec et pharmacien de profession, Charles Milliard, qui se relance officiellement à la course à la direction du Parti libéral du Québec. Évidemment, tout ça est pour succéder à M. Pablo Rodriguez. Je vous rappelle que le gars était dans la première course à chefferie. Puis selon les sondages, t'en parlais en début de show, Pierre, les deux gars suivaient beaucoup, là, même que Milliard, des fois, on dirait qu'il voulait dépasser Pablo dans les sondages.
Je sais que dans les bonzes du Parti libéral du Québec, là, eux autres, ils se disaient, est-ce qu'on fait une gaffe d'amener un gars comme Pablo Rodriguez, un outsider d'Ottawa? Mm-hmm. On veut se dégager de cette image-là.
Puis n'oublions pas le 9 ans Trudeau, là, le 9 ans difficile de Justin Trudeau. Là.
Puis là, t'avais Dominique Anglade qui avait calqué quasiment la politique woke.
Ah oui, le parti...
Du Parti libéral de Justin Trudeau au Parti libéral
du Québec.
Il avait
viré complètement à gauche, là.
Ah oui, non, c'est ça. Fait que Pablo a été une gaffe, on l'a vu, ils ont géré ça. Il a géré ça tout croche.
Mais ce qui m'a surpris, c'est la victoire de Pablo, à quel point c'était dominant. Tu sais, moi, je m'attendais à une course très serrée.
Non,
des
c'était
résultats.
Pas si dominant que ça. Je pense que c'était 52-48.
C'était 52, je pense que c'était 55.
Dans ces eaux-là, okay. Mais quand même.
Mais, c'est, ouais,
mais
c'est
on a amené des votes, on l'a vu, là,
ouais.
À la fin. Mais là... Pas juste parti, on parlera pas juste du Parti libéral. Là. C'est conservateur, PQ. PQ est monté haut.
Absolument.
PQ est en train de redescendre.
Oui, on baisse de points à chaque sondage là, depuis 6-7 mois.
Ah ouais, let's go. On ouvre les lignes.
Oui, fait qu'on veut vous entendre là-dessus. Candidature de Charles Milliard, pensez-vous que ça ferait un bon premier ministre? Puis parlons de politique provinciale. N'oublions pas que les élections, c'est au mois d'octobre. Là, fait qu'il y a bien des changements qui peuvent arriver d'ici là.
Ouais.
On veut vous entendre au 88-670-9098. On va aller sur la 2 et le Radio X.
Oui, on vous écoute.
Allô?
Oui, c'est à vous, oui.
Yes. Hey, je te dirais que j'ai écouté Moret un matin, là, il parlait, tu sais, que ce soit le PQ ou le libéral, ça ressemble pas mal tout à cette heure, là.
Oui.
Mais le parti qui va être, le plus douette, puis le plus, d'arrêter de materner, puis de, tu sais, qui arrête la drive, qui veulent qu'on soit les meilleurs au monde dans peu importe le domaine, que ce soit les arts, les affaires, le sport, ben le gars qui va arriver là avec la drive, ben tabarnouche, il mériterait sa place. Peu importe le parti, parce qu'ils sont tous rendus pareils, à part Éric Duhaime, dans le fond.
Ouais.
Puis lui, ben il y a de la misère un peu. Tu sais, tout le monde rit de lui, c'est plate. Puis l'autre affaire, ben c'est qu'il parle tout du 51e État. Ça serait pas 51, ça serait peut-être 52, 53, 54. Tu sais, l'Alberta a son identité, l'Ontario, le Québec, ça serait probablement tout séparé. Puis là, on aurait plus de drive, je pense, économiquement, on serait plus solide. Puis, ben écoute, on pourrait exploiter nos affaires, puis tu sais, tasser le wokis un peu, là.
Mais
aller de l'avant, puis... être fier des Québécois comme dans le temps.
Ouais, mais Charles Milliard, on le connaît pas. Hein? Moi, je le connais pas. Là. On ne sait pas. Ce gars, il a peut-être parlé à la radio ou à TV.
Il peut être bien bon, mais les résultats sur la table, ça va être quoi aussi?
Mais on connaît pas sa personnalité. Ah. Peut-être que ce gars-là va s'écraser aussi, parce qu'il y en a qui arrivent, ils sont pas bons. Là. Pablo, on l'a vu. Ben, là. Il était dans l'espèce, dans l'ombre de Justin Trudeau.
Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas l'historique politique. Là.
Ouais.
Le long bagage qui me fait rentrer dans la machine.
Ce qui passe, c'est qu'il est douette en tabarnouche parce qu'il va être scruté à la loupe. Je vais m'entendre d'avoir un qui est douette de même, qui n'a rien à se reprocher, puis qu'après ça, il fera ses classes. C'est comme Duhaime, il n'y a pas plus été en politique longtemps, mais il faut qu'il fasse ses classes, il va se prouver. Lui, il doit être assez douette depuis le temps qu'il se fait checker puis que challenger, on s'entend-tu que...
Oui. Mais t'as un bon point, parce que j'imagine que si le gars se représente avec tout ce qui s'est passé au PLQ dans les dernières semaines, t'as pas le choix d'être plus blanc que blanc puis d'avoir un dossier parfait. Fait que j'imagine que le gars, il doit avoir confiance en ses moyens, là.
C'est ça. Non, puis c'est ça que ça prend. C'est quelqu'un qui a de la drive, parce qu'on s'entend qu'il rentre là, le vent en face, puis le soleil dans les yeux, fait qu'il veut, tu sais, il va pour les bonnes raisons, pour croire.
Voilà. Hey, merci beaucoup.
Merci à vous.
Hey, bonne année 2026. Hey. Voilà.
Merci, Charles.
Tu vois, là, sur la messagerie, il y en a qui disent il y a les indépendants aussi, les députés indépendants de la CAQ. Il y en a une gang qui sont partis.
Mais, hein?
Il y en a 7 ou 8.
C'est-tu 7?
Il y en a une gang, là.
Avec Dubé, maintenant, ça en fait beaucoup.
Oui, Dubé, il y a Maïté Blanchet-Vizina, t'as aussi le gars de l'Abitibi, t'en as une gang, là.
Oui, oui.
Et là, il va y avoir une partielle aussi à Chicoutimi, là, je pense.
C'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce qui va se passer avec ça?
Ministre Laforêt qui a démissionné, qui est parti pour la course à la chefferie là-bas et elle s'est fait battre.
Ta mairie, exact.
Exact. Donc là, Legault doit déclencher une partielle là-bas. C'est peut-être le PQ qui aurait une avance dans ce...
Mais tous les partiels jusqu'à présent au Québec, il y en a eu quoi, 4 depuis? 3-4? Puis ça a été des victoires du Parti québécois. Là, voilà. On se souvient d'Argentona à Québec, puis plus récemment du côté d'Arthabasca.
Mais ça pourrait se resserrer, là. De Boissonneau. On va le voir, là. Le Parti libéral... Moi, je vous le dis, là...
Mais c'est parce que le PQ est parti fort, Pierre. Ouais. C'est trop fort. C'est ça, l'inquiétude. Puis là, ben, on met beaucoup, évidemment, l'indépendance à la table. Puis là, ben, ça va faire breaker bien du monde. Puis on le voit dans les intentions de vote. Fait que, tu sais, il y a plusieurs chances qui se présentent, non seulement pour le PCQ, mais si on arrive avec un bon chef du côté du Parti libéral.
Mais Legault, là, ça demeure l'espèce de le talon d'Achille de la CAQ. Parce que tu parles avec le monde, si tu changes le messager, tu changes le porteur de ballon. Là, ouais, tu peux comme changer un peu pas mal de choses.
La dernière stratégie dans la campagne électorale de 2022, c'était quoi? On met Legault le moins possible devant Kodak, puis ça avait relativement bien fonctionné. On est rentré très fort, mais c'est ça. Aussitôt que le gars se pointe devant une caméra, il se dit, il bourde, fait des gaffes, fait des affaires, c'est pas correct. Fait qu'à un moment donné, on est peut-être rendu à un point, on l'a vu beaucoup trop souvent, mais on se souvient des points de presse de la COVID, là, ça a fait en sorte qu'il est usé à la corde. Ah, mais si t'arrives avec un gars qui est ben crinqué ou une fille...
Ben, un outsider.
Ah oui.
Mais dans le cas de la CAQ, non seulement ils sont brûlés, mais ce qui arrive, c'est qu'ils vont arriver avec de l'argent. Ils vont dire, on promet un 500$, un 700$, puis ils vont donner ça aux personnes âgées, parce qu'on sait que les personnes âgées, il y en a beaucoup de Québécois qui n'ont pas d'argent pour leur retraite. Et là, tu leur arrives avec un bonus de 500$, 700$. Carnet a fait ça.
Mais ben, tu penses qu'ils vont re-oser faire ça?
Ah, oh, ben oui.
Monter ça à 700$, un chèque.
Non, c'est rendu ça, là. C'est la norme.
On va acheter des votes demain.
Oui, on achète des votes demain.
On est tellement rentré fort aux dernières. Mais je peux pas croire que même si on met de l'argent sur la table, que le gars va rentrer avec des chèques.
Ouais, c'est ça, il y en a qui disent qu'il ne faut jamais sous-estimer les gouvernements en place. Ne pas oublier aussi qu'on est à juste 500$ pour un vote pour la CAQ.
Oui, puis il t'entendait des vox pop de Max. Ouais, mais tiens, ils nous ont donné un chèque, on lui fait confiance.
Ah, oh, exact.
C'est triste de même. On va aller voir sur la 1, allô, Radio X.
Oui, on vous écoute.
Oui, allô?
Oui, c'est à vous.
Oui, bonjour. Hey, j'ai une question pour vous. C'est quoi le rôle premier d'un député?
C'est de représenter ses commettants, ses
citoyens.
Ses citoyens, ses ouailles.
Oui, bon, ben, pouvez-vous me nommer un député qui n'a pas une ligne de conduite, une ligne de parti avec son chef?
Ben là, il y a des indépendants, là.
Oui, oui, monsieur. Fait que là, moi, j'ai l'impression que il faut s'en aller vers les indépendants. Parce que peu importe le premier ministre qui va être au pouvoir, il devient dictateur. Il écoute plus, il fait ses idées, puis tous ses députés le suivent. Là, l'Assemblée nationale, ça ressemble à aller à un cours suprême, puis à la fin de tout, le jury demande au juge est-ce qu'il est coupable ou non coupable. C'est ça qu'on vit, là. On n'est plus représenté en tant que citoyen.
Mais les indépendants, il n'y en aura pas beaucoup aux prochaines élections, là, parce qu'ils vont tous se rallier à des partis politiques.
Ils vont jouxter,
je le sais, mais les gens vont me dire que ça va piétiner avec des indépendants, mais si ça aurait piétiné dans les 4 dernières années, ouais. On n'aurait peut-être pas perdu de l'argent dans notre vote et des places
de
maire.
Entre autres, là, mais ça, c'est une politique de parti puis d'aveuglement volontaire, j'imagine.
Ben, c'est ça. Moi, regarde, le registre des armes à feu, il n'y en aurait peut-être même pas non plus.
Exact.
On avait eu des... Ben, c'est ça, moi, je trouve ça triste. Les députés, leur mandat, c'est de représenter leur comté, puis c'est toujours leur chef qui représente. Fait. Et où l'utilité d'un député?
Allez-vous aller voter?
Oui. Ben oui.
Okay. Non, mais c'est parce que là, il y a 50% des gens qui vont plus voter. Là.
C'est surtout ça le problème.
Mais
actuel,
ça aussi, là, tu regardes le taux de vote, le taux de participation, puis ça diminue à chaque élection. Puis là, tu regardes un peu comment ils nous traitent. Et comment ils traitent la démocratie, puis là, après ça, seulement pourquoi les gens vont pas voter.
On se souvient des élections municipales avec Stéphane Lachance. Là. Il y aurait eu des chances de son bord si le monde s'était pointé.
Mais ben regarde, au municipal, ici à Québec, ben, le monde a voté pour Bruno Marchand, c'est correct. Mais 50% du monde ne sont pas allés voter.
C'est ça.
C'est parce que c'est des cours. Pour les candidats, il faut savoir pour qui qu'on va se.
Voilà. Je pense que ça coupe.
Les prochaines 4 années.
Ouais, exact. Hey, merci beaucoup.
Bonne journée.
Salut.
Salut, ciao.
Voilà.
On nous dit par texto c'est un country club, Pierre. Puis là, ben, on dit Sam également, le PQ a piqué trop vite. Ça, c'est un point important. Je pense que ça pourrait profiter à d'autres partis d'ici l'élection du mois d'octobre prochain, 5 octobre 2026.
Tu vois, on dit à 105 000 $ comme élus, ils ont peur, ne veulent pas perdre leur job. Moi, je comprends, mais tu sais, tu peux devenir indépendant, là. Je veux dire.
Oui, oui.
Moi, je pense que c'est ça. T'sais. À l'image.
Mais c'est parce que le problème, c'est qu'il est rendu aux prochaines élections, il n'aura pas d'indépendant. Là.
Non, c'est ça, ils vont
choisir leur camp.
Ils vont tous être dans des partis politiques.
On va retomber dans le même problème, puis rendu à l'an 3 ou à l'an 4. Ouais, là, je débarque.
Mais là, on s'en va aussi, à cause que le PQ est là, puis le PQ veut l'indépendance. Là, on s'en va vers une dualité, là. souverainistes, fédéralistes. Et là, on embarque dans une dynamique qu'on n'a pas vue depuis 10 ans.
L'éternel combat qui a été lancé par le Parti libéral du Canada dès le départ.
Ouais, c'est ça.
Là, tu vois d'autres textos qui rentrent. On a bien du monde qui nous écrivent. J'ai 70 ans, j'ai jamais voté pour la CAQ, toujours pour le PCQ. Et quand bien même que Legault promettrait un 1 000 $, jamais, il réussit à nous faire décoter, nous endetter avec son virage électrique. Mais écoute, tu dis ça, mais je veux dire, tu donnes un chèque de 1 000 $ à Suzanne qui écoute la joute. Là.
C'est sûr d'après moi, 1 000 $ là, pour tout le monde, là, puis tout dépendant des salaires qu'on a. Là.
Je pourrais m'acheter une TV avec 1 000 $.
Ah oui? Hein? Une TV chinoise?
Acheter des nouveaux mags. Voilà. Mettre mon Slick. Pas de pas pire.
Voilà, ça fait le tour.
Yes. Hey, justement, dans l'impasse, j'ai vu un texto passer tout à l'heure. J'essaie de le retrouver. Mais l'essence sera en train de monter du côté de Québec.
Ah oui?
1,69.
1,69?
Oui, je vais vérifier. Okay. Si parce qu'il y a un auditeur qui nous a écrit « Coin de l'Enfant Jésus, boulevard Henri Bourassa,
okay.
Coin 18e du côté du Shell, 1,69.9.
Ben » oui, mais le pétrole n'a pas monté.
Oui, puis présentement, il est à 1,36, 1,39. Là, fait que ben, si ça augmente à 1,69, c'est une méchante augmentation.
Oui, j'ai dû 1,34.9 au Costco. J'ai dû 1,39.9 à ce coin-là, cette Shell-là.
OK. Puis tu vois, j'ai dû 1,42 dans les plus chers de ce que je vois mais sur le gaz body. Mais si vous envoyez, vous autres qui montent en fou de même, textez-nous 670-9098.
1,34.9 Costco, 1,36.4 Couche-Tard sur la route Fossambeau, selon gaz body. Irving, Couche-Tard, Henri Bourassa, 1,38.7. Mais là, comme tu dis, il y a peut-être une alerte. On va
ça ferait mal à 30 cents de plus. Là.
Hein? Mais pourquoi 30 cents de plus?
C'est beau.
À cause du Venezuela, il se passe quoi?
Yeah, ouais, c'est, yeah, il s'est passé de quoi là-bas? On va
c'est
augmenter
1%
le gaz.
Seulement de la production
vivement
mondiale.
Vivement le prix plancher, Pierre. Hein?
Voilà.
Tabarouette.
Après la pause, on jase de sport.
Yes, sir!
Équipe Canada Junior, le bronze.
Mm-hmm.
Le Canadien, là, je pense que c'est le point de presse de Kent Hughes hein, aujourd'hui.
Ouais.
Il va faire le bilan de mi-saison.
Déjà.
Et on va parler de NFL. T'as vu le wild card? Là? Ben, ça commence à...
Ouais, le portrait des séries. Puis on parlera des congédiements également.
Oui.
M. Carroll qui va quitter les Raiders.
Ben,
on va montrer la porte. Ouais, T. Brown. DG, c'est lui qui aurait dû sauter à Cleveland d'ailleurs.
Ouais.
C'est lui qui a signé DeChamps en passant. Là.
Ouais, non, c'est toute sa gang de mauvais là.
Ouais.
Mais tu vois, les mauvais, des fois, ils restent.
Ouais, ils ont des bons contacts.
Et les bons.
Ben chum avec les proprios.
C'est ça. Voilà. On revient après la pause.
Chers militants du Parti libéral du Québec, en 2025, on a passé beaucoup de temps ensemble à discuter de notre avenir. Au cours des dernières semaines, vous avez été nombreux à me contacter de toutes les régions du Québec pour qu'on puisse poursuivre ensemble cette conversation. Je veux vous dire comment votre enthousiasme me touche profondément. Comme vous, je partage deux grands constats. La Coalition Avenir Québec a eu 8 ans pour nous impressionner et personne au Québec actuellement est impressionné par la santé de nos services publics et le déficit qu'ils ont créé. Et de leur côté, le Parti québécois a une seule et même obsession, la souveraineté du Québec, alors que les Québécois veulent entendre parler du coût de la vie, de santé, d'éducation et de culture. Face à ce cul-de-sac politique et fort de son histoire, le PLQ doit redevenir une force politique incontournable au Québec. Et il doit proposer des idées qui parlent aux Québécois, à leur tête, à leur cœur, à leur poche. Chers amis, le renouveau du Parti libéral, c'est maintenant que ça se passe.
Coup sûr dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy.
Radio X, le carbo.
Carbo.
Chaud.
Avec
allô?
Carbo.
Oui, c'est le carbo.
Lundi au jeudi, 18h.
Radio X.
Le Carbo Show, présenté par 888casino.net. Plongé dans 888casino.net, c'est fait pour jouer. 19 ans et plus, jeu gratuit uniquement. Jouer de manière responsable.
Déjà en 2026, l'Appui du Québec souhaite à ses partenaires et employés une année de bonheur, de prospérité et en santé. Merci pour votre confiance à travers le temps et les projets. L'Appui du Québec, expert en forage de puits artésiens, système de pompage, forage géothermique, projet de recherche en eau et projets commerciaux a à cœur la qualité de vos travaux. Soyez guidés par une équipe de confiance, d'expérience et engagée. Demandez votre soumission. Contactez l'Appui du Québec, puis avec un S.com.
Chez Resto Richard et Patate Plus, pas besoin d'attendre qu'il fasse froid pour profiter d'un rabais sur ta poutine. Pendant tout le mois de janvier, profite de 40% avec le code POUTINE40. Disponible dans nos deux succursales ou en ligne. Passez-nous voir chez Resto Richard et Patate Plus.
Capsule
Radio X.
Tu veux t'offrir le cadeau parfait? Un F-150? Donnacona Ford. Tu le veux au taux d'intérêt à 0%? Donnacona Ford. T'as un échange et tu veux le meilleur prix? On t'attend chez Donnacona Ford.
Besoin de chariots élévateurs sur vos chantiers, votre cour ou votre entrepôt? Giroir Équipement est le spécialiste de confiance avec ses équipements Manitou. Une gamme de chariots élévateurs télescopiques complète prête à vous aider dans vos projets. Giroir Équipement, le spécialiste depuis plus de 27 ans. Giroir.qc.ca. En janvier, c'est le mois pour se gâter. Au Galopin, profitez d'une carte cadeau de 100 $ pour seulement 75 $. Oui, 25 $ de plus pour bien commencer l'année. Offrez-la ou gardez-la pour vous. Le Galopin, le plaisir continue en janvier.
Le retour de Radio X.
31 décembre, là, je ne suis pas rendu à minuit. J'avais plus de gaz.
Ben, moi, j'aime bien quand ça commence à la fin d'après-midi, 4h, 4h30, puis tu jases autour de l'îlot, tu soupes ou une petite bouchée autour de l'îlot, puis 9-10 heures, quand les premiers disent, ben là, je suis bien content. Ça non, oui.
Le retour de Radio X.
Lundi au vendredi, 15h.
Radio X.
Présenté par Donnacona Ford. Tu veux un F-150? Donnacona Ford. Tu veux un taux d'intérêt à 0% ou jusqu'à 12 000 piastres de rabais? Donnacona Ford. T'as un échange et tu veux plus? Ben, c'est chez Donnacona Ford.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Choix.
Choix.
Radio X. À Québec, c'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous votre propre opinion. Couture.
Attendez-vous que vous ayez tout sur table.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture.
Ouais.
Et Nick Cloutier.
Ouais, ouais.
Radio.
Radio
X.
Hey Jordan.
Hey Peter Couture.
Équipe Canada Junior.
Ouais. Ouais, ben écoute, on a une médaille. Tu mets une claque sur la gueule.
Médaille de bronze.
Ouais.
Ah, mais je regardais le match pour la médaille d'or entre la Suède et la Tchéquie, la Tchécoslovaquie. C'est ça, la
Tchéquie, ouais, on peut dire ça.
La Tchéquie. Ben écoute, c'était 3-0 pour la Suède. Il restait 2 minutes, 3 minutes.
Ouais, puis ils ont essayé de revenir, les Moses.
Ils ont marqué 2 buts.
Ah oui, je sais, ça passait proche.
Ils ont enlevé le goaler. Puis, bon, la Suède a marqué, il restait 8 secondes, je pense, quelque chose comme
mais
ça.
Mais si
là.
La Suède a le numéro de la Tchéquie, clairement que le Canada était capable d'avoir le numéro de la Tchéquie également.
Ouais, mais la Tchéquie, là, je sais pas si tu as vu ça aller.
Je sais qu'il y a un bon système de jeu, ils sont efficaces l'échec avant. Tu me diras ce que tu voudras, mais tu regardes le talent brut de Team Canada
oui.
Et
oh,
de
oui.
Loin, tu devais gagner ce match-là. Tu n'avais pas le choix.
Mais
c'était des erreurs, des turnovers tout le temps, des histoires niaiseuses qui... Tu sais, c'est le Canada qui s'est fait prendre dans son propre jeu. C'est ça qui est triste.
Grand talent, on a vu pas mal de ça passer, des grands talents.
Grand talent, puis.
Pas de
ouais, c'est ça. Hein? Le cœur, ils l'ont laissé sur la table. C'est beaucoup. On focus sur le plus beau jeu, le highlight de la semaine qui va passer à TV.
C'est toutes des petites vedettes. T'sais, le père ont tous été joueurs dans la Ligue nationale. Les Flo, écoute, leurs parents sont millionnaires.
Mm-hmm.
Se sont fait payer des programmes de hockey à 30, 40, 50 000 piastres par année.
Demande-toi pas pourquoi il n'y a plus de Québécois aux Jeux olympiques, aux World Junior. Mais c'est une affaire. Je veux dire, au Québec, on n'a plus de cash. De la misère.
On est cassé sur tout.
Mais
c'est
oui.
Pas drôle, c'est ça.
Mais que la... des... c'est parce que c'est des programmes de patins.
Ouais, mais de la Tchéquie, les autres, sont-tu payés comme ça? Vous avez...
Pas nécessairement. Je sais pas comment ça fonctionne précisément en Tchéquie, mais les autres, ce qui axe, c'est beaucoup le développement du joueur. Fait qu'au lieu de passer, on va dire, 40 games par année à jouer à côté ou dans le junior, c'est une 60aine de games maintenant, ben on va prioriser le développement. Fait que t'en joues beaucoup moins, puis ils vont aller chercher les gars qui ont le meilleur QI hockey, puis le talent. Puis
est-ce que
tu fais
aussi d'autres sports? Ils sont très forts dans le,
ben oui.
Le soccer. Là,
ouais,
le
ouais
foot.
Vraiment, vraiment.
Je regarde la Suède, la Finlande. La Finlande, c'est 5 millions de population.
Non, enfin, c'est des pays scandinaves là, qui sont beaucoup moins gros que le Québec. Là. Suède, c'est quoi? C'est-tu
8-9
millions?
Ouais.
OK, c'est 10. Ouais, c'est ça. Fait que c'est
Québec,
relativement similaire
9.
Au Québec.
On,
là, on vient
oui.
D'atteindre le 9 millions au Québec.
Oui. Puis
pourquoi on ne perce plus de même? Pépinière de gardien avant avec des Brodeurs, des Fleury, nomme-les Roberto Luongo. Il n'y en a plus un qui sort, Pierre. Plus un.
Les goalers,
on parlait de Gabriel Daigle avec l'éthique de Victor il y a une couple d'années, mais... Il a été repêché par les Pingouins, mais ça donnera pas un gardien élite, je crois bien. En tout
mais,
cas,
mais c'est-tu parce qu'ils vont piger l'autre bord de plus en plus? Puis ça affecte la valeur de nos joueurs, mais tu sais...
Mais il y a des choix qui auraient pu être logiques dans Team Canada cette année, là, avec des Justin Poirier puis des Carbonneau, le gars de Blainville-Boisbriand qui a été repêché par les Blues de Saint-Louis. Tu sais, ces gars-là auraient mérité de faire le club. Beaucoup de points d'interrogation, mais on sait que Team Canada est beaucoup axé sur les gars en Ontario puis dans l'Ouest, mais... Je comprends que c'est des exceptions. Là. Ces gars-là auraient pu être dans l'équipe, ça, c'est clair. Mais
ouais.
Tu regardes le ratio, il y a beaucoup plus de joueurs qui proviennent de ces provinces-là que le Québec.
Oh
là.
Oui! Mais on dit que le programme de hockey junior Canada, ben, c'était à Calgary.
Oui.
Donc là, t'as l'Ouest eux autres voient beaucoup de matchs. Dale Hunter, le coach, c'est un gars de l'Ontario.
C'est le gars des Knights de London.
Donc, il y avait beaucoup de gars de l'Ontario aussi.
Ouais. C'est toujours ça. Là. On se souvient, il y a quelques années, Zach Bolduc aurait pu y être. Ne l'était pas.
Il y avait
toujours
pas de
un
coach
genre de
québécois non plus. Là. Non. Habituellement, dans le coaching staff, il y a toujours un adjoint québécois.
Ouais.
Lui, il arrive avec sa vision. Il dit, ben, tel joueur, il faut les amener au camp au moins.
Mais c'est ça le problème. Il faut vraiment que ce soit plus départagé, kiff-kiff. Tu as trois ligues dans Canadian Hockey League, WHL, la OHL puis la Q. Il faudrait qu'il y ait au moins une bonne proportion de plusieurs personnes qui travaillent dans les organisations, dans les ligues, avec plusieurs rôles différents. Parce que sinon, ça donne un avantage net, exemple, à WHL. Puis dans l'Ouest, on en développe des bons joueurs, des gros bonhommes, des défenseurs à lâcher Weber, mais qui souvent ne percent pas nécessairement dans la Ligue nationale.
Mais là, ça donne ce que ça donne. Ça fait quoi? Là, le bronze, on le ramasse, mais ça faisait quoi? Trois ans qu'on se faisait sortir?
Trois ans? C'est l'enfer, ça. C'est de sérieuses questions à se poser. Une refonte complète de ce modèle-là pour réussir, parce que c'est pas un standard qu'on doit approuver année après année. Tu sais, la Tchéquie, trois années de suite, puis en plus de ça, t'avais pas de médaille dans les trois dernières. T'sais, à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, au moins, on met la main sur le bronze, là, tu vas me dire. Puis ce que j'ai aimé hier dans le game, c'est oui, c'est une victoire pour le bronze, c'est pas nécessairement ce qu'on voulait. Mais les gros noms se sont levés. Parce que moi, je m'attendais à... Regarde, on a perdu. Hein. Rendu là,
ils ont tout approuvé aussi.
Ouais, c'est ça. Fait que t'as eu deux buts de Sam O'Reilly, Porter Martens, Zach Parekh également. Puis c'est ça. Gavin McKenna, 4 points hier, 1 but, 3 passes. C'est Michael Hage, Pierre. C'est lui qu'il faut jaser. 4 points hier, 4 passes. Puis quand tu regardes ça...
Il a fini premier compteur du tournoi.
Exactement. Il a fini au sommet avec 15 points. Le meilleur, 2 buts, 13 passes. C'est un record pour un espoir du Canadien. Puis il est même sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Puis les 13 passes à H sont quasiment un record parce que Connor Bedard en avait eu 14 en 22-23. Fait qu'il est dans une catégorie à part
là,
dans ce tournoi-là.
Connor Bedard qui roule à fond de train dans la Ligue nationale, puis lui, c'est quoi, ça fait 2 ans, là?
Mm-hmm. Là, il avait eu 23 points, par contre, Bedard, dans ce tournoi-là. Là.
Mais peut-être que... Ouais. Mais quand même, là, le Canadien va t'avoir un méchant club tout à l'heure.
Ils vont être solides. Puis, tu sais, le potentiel de Hage, ce qu'on veut dans l'organisation du Canadien, c'est qu'il soit deuxième centre. Là. Puis de la façon qu'il a joué, je pense qu'il y a un très beau potentiel. Je suis pas en train de te dire que ça va se faire en un claquement de doigts.
Ouais,
parce
long,
que
là, ouais.
D'arriver à la Ligue nationale, c'est un autre niveau. Puis il est dans NCAA au moment où l'on se parle. Là. Mais il a atteint des standards quand même intéressants. Là. Il est tout près de des gars comme Eric Lindros, des points, Mason McTavish, Wayne Gretzky. Puis Bedard a fini premier ever dans le tournoi. Mais il faut faire attention aussi parce que Il y a bien des gars qui ont tout cassé dans le championnat mondial de hockey junior, puis ça l'a pas fait.
Ça a foiré.
Exemple concret, Ryan Poehling, le gars qui a compté 4 buts à son premier match avec les Canadiens, dont un en tir de barrage. Là. Je sais pas si tu t'en souviens de cette histoire-là.
Oui, je me souviens. Puis là, c'était la grosse affaire. Molson, il avait donné la collade comme si c'était Wayne Gretzky.
Non, oui, on le voyait, The Superstar, The Star is Born, puis ça n'a pas donné grand-chose. Il faut faire attention, mais Age, de la façon qu'il s'est comporté, on dit que dans le vestiaire, c'est un très, très bon leader également. C'est des bonnes nouvelles pour le Canadien. Fait que, somme toute, oui, il y a eu un petit peu de positif dans cette victoire-là, puis un espoir du Canadien qui a cartonné dans le tournoi.
Hier, les gens de la Suède, ça pleurait, là. Eux autres, pour eux autres, c'est la troisième médaille d'or seulement.
Ouais, puis c'est la première depuis 2012. Ça fait longtemps, là.
Oui, puis le monde braillait, puis les flots capotaient. Là. Les autres, ça va être des héros.
Parce qu'aux derniers Jeux olympiques, à Sochi, quand les gars de la Ligue nationale étaient là, la finale, c'était Canada-Suède. Ils avaient gagné l'argent. Fait que c'était un maudit bon programme hockey, pareil, là-bas. Là.
Oui.
T'es supposé performer plus que ça, fait que c'est une bonne nouvelle pour eux autres.
Ils ont des goalers, si je pense que c'est le goaler du tournoi.
Ouais.
Il y a un avant aussi. Là, ça
c'est
roulait,
poche
là.
Pareil, parce que le match de demi-finale, je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, entre la Suède et la Finlande, ça s'est terminé en tir de barrage.
C'est ça.
Puis en plus, ce qui est particulier, c'est que là, la ronde, parce que c'est une ronde de 5 tirs chaque, là, c'était égal. Fait que là, il fallait switcher. Fait que là, c'est la Finlande qui commençait. Là, c'est la Suède qui recommençait.
Mais tu y vas. Normalement, tu y vas en prolongation.
Tu y vas en overtime. Tu mets 20 minutes. Puis je suis content qu'il y ait un but. That's it.
Ouais.
Ça donne le meilleur hockey ever.
Mais je pense que la manière dont c'est programmé, après ça, il y a un autre match. Donc, on attend que le match soit terminé.
Plate, commencer la game une demi-heure plus tard.
Ouais, mais des fois, ça peut prendre.
Ça peut être très long, ouais, mais d'un autre côté, pour le spectacle. T'sais. Moi, un dénouement de tir de barrage, il n'y a rien de pire que ça. Puis moi, je pense que la Ligue nationale doit s'attaquer à ce problème-là, là, l'histoire des tirs de barrage, parce que là, pour l'instant, la prolongation 3 contre 3, 5 minutes est encore
mais
en place.
D'un série, t'as pas ça?
Ouais, mais en saison, moi, je mettrais beaucoup plus de temps en prolongation. Moi, je mettrais un 7 à 10 minutes de prolongation 3 contre 3 pour t'assurer que ça finisse pas en tir de barrage. Bon, c'est poche, là, parce que, tu sais, exemple, la game Canadien Lightning, quand le CH est revenu, il perdait 4-1 puis 3-0. C'est fini en tir de barrage, là.
Ouais.
Fowler n'a pas bien paru sur
mais
les
moi,
débuts.
Mais moi, je trouve ça bon, le spectacle, parce que c'était ennuyant. Il y avait une nulle, puis à la fin,
mais t'avais une nulle, mais là, t'as des prolongations à 3 contre 3. Je trouve que le show est bien meilleur, parce qu'avant, c'était 4 contre 4 prolongations, là, depuis à peu près 5 ans que c'est 3
ouais.
contre 3.
Ouais.
Ça donne un méchant show, là. T'as toujours des revirements d'un bord puis de l'autre. T'aimes bien mieux voir un match se finir de cette façon-là que de le finir en tir de barrage avec un gardien qui paraît mal.
Mais moi, j'aime bien la formule tir de barrage.
Ouais.
Ça amène du. Tu restes. Debout
okay,
jusqu'à
dans,
la fin.
OK, dans saison, mais dans des tournois de même, j'enlèverais ça au pied carré.
Mais
là.
En série, Ligue nationale, t'as pas ça?
Mais non, c'est une maudite bonne affaire.
Ouais.
Si tu veux des dénouements avec des périodes de prolongation de 20 minutes.
À part de ça?
À part de ça, ben Kent Hughes, le bilan demi-saison, ça va se passer ce midi. J'imagine qu'il y a du positif à retenir là-dedans. Oui, il y a eu une séquence creuse au mois de novembre. Mais
bon,
regarde,
le Canadien, là.
Mais tu regardes le voyage dans l'Ouest puis en Floride. 4 victoires, une défaite, 2 revers en tir de barrage. Puis c'est de la façon qu'on s'est comporté. Là, je te parlais de la game contre Tampa, le perdant tir de barrage, mais on est revenu. Contre les Stars, c'était une solide formation. Les Panthers ont remporté ça en prolongation. On était revenu de l'arrière, on tirait 2-0, 0-2.
Ils sont dans le mix?
Oui, oui, ils sont dans le mix. Ils sont à un point du Lightning présentement.
Ils sont pas juste dans le mix, ils font une série.
Oui. Fait que il y a du concret, puis on voit l'amélioration. C'est surtout ça dans une période de reconstruction, parce que là, la construction est sur le point de se terminer. Mais tu veux voir une évolution de ton équipe. L'an dernier, c'était beaucoup par séquence. Souviens-toi, là, c'était des séquences de 5-6 défaites. On revenait, on en rapportait 8.
Oui, exact.
Mais là, cette année, ça se tient un peu plus. Le seul point important à travailler, c'est les victoires au Centre Bell. On gagne à l'extérieur. Là. On l'a vu, là, c'est un très, très bon voyage pour le Canadien. On a vu un deuxième trio incroyable avec Slavkovski qui se lève, Demidov qui fait des passes de fou. Premier trio, des fois, qui laissait un petit peu à désirer, mais quand même, l'important, c'était d'aller chercher les points. On le fait, mais là, il faut que tu performes au Centre Bell. Si tu veux faire les séries, ça te prend des victoires à la maison parce que là, tu es sur le 500 ben, au Centre Bell. C'est pas normal.
Mais vraiment, les blondes sont trop agressives.
Il y a trop de Chanel dans les parages.
Moi, je pense que les blondes sont agressives. Tu as vu Slav, il a scrappé sa BM hier.
Oui.
Ouais. Il se passe des affaires. Là. Quand ils reviennent, on dirait qu'ils virent fous.
Comme Zach Cashin avec son accident de troc. T'en souviens-tu de ça? Hein? Tavern.
Il y avait deux femmes.
Ouais, méchante affaire. Puis au niveau du bilan médical du Canadien, ben là, on a beaucoup de blessés. Ça fait une couple de mois que c'est comme ça. Mais là, on devrait avoir des retours éventuels, genre Caden Goulet, qui est une maudite
Goulet,
bonne nouvelle
correct.
En soi, parce
les
que
autres.
Ça va rééquilibrer le pH du CH à la défensive. Fait que Goulet porte un chandail régulier à matin à l'entraînement.
Goulet va se reblesser avant une série.
Tu penses?
Ben, il est tout le temps blessé.
C'est vrai qu'il est fait en plastique.
Après ça, Dak, ça va se reblesser, ça va être fini. Son contrat se termine là, lui.
Mm-hmm.
Lui, il revient pas, là.
Tu penses qu'ils vont le laisser partir?
Ben voyons.
Ouais, mais tu l'as payé, Dak, là?
Ben, tu l'as payé, puis il est pas bon.
Ouais, je sais pas, là. Il allait bien en début de saison. Il s'est blessé encore,
Capanen
tu vas me
fait
dire.
Le job, là.
Ouais, mais si Dak revient, je pense que tu peux le mettre sur le premier trio avec Suzuki puis Caulfield, voir comment ça va aller. Parce que clairement, c'est un ailier le meilleur qu'un joueur de centre.
Oui, il va se reblesser. Puis là, faut que tu lui redonnes un contrat après ça. Non, oublie ça.
Non, mais c'est à lui de nous prouver qu'il est correct. Là.
Mais
tu sais,
quand même,
il revient, tu mets Dak sur le premier trio, puis tu laisses ça aller un peu.
Il a pas joué.
Mais il a joué quand même pas pire en début de saison.
C'est
là.
Quoi sa valeur, ce gars-là?
Ben là, c'est sûr qu'avec les blessures, ça fait mal, mais quand je regarde son début de saison, il y a eu 7 points en 15 matchs. C'est pas spectaculaire.
Non.
Moi, je trouve que sa courbe de progression avant sa blessure était dans le bon sens. Un peu comme Alex Newhook. T'sais, Newhook, c'est pas un gros bonhomme, mais il était capable de marquer des gros buts quand même. Là.
Non. Moi, l'aîné, c'est ça, ça revient pas l'année prochaine?
Non, je penserais pas. Là, au salaire qu'il commande, il a tout approuvé, lui, avec. Là.
Newhook, correct. Là, il patine vite.
Ouais. Puis là, ben il a pris confiance un peu. Il a trouvé ses repères. Fait que non, c'est sûr que Dak, c'est un cas très incertain. Mais je pense que ça vaut à peine d'y donner une chance pour la fin de la saison, voir comment il va se débrouiller.
Ménage à 3.
Ouais, devant le filet, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que mettons que je fais appel à M. Pierre Couture, entraîneur d'expérience.
Oui.
Là, t'as Jacob Fowler qui était là, qui est square, très bon dans son filet. C'est sûr que certains buts, il a paru un petit peu mal, mais c'est un jeune gardien qui va devenir... Un excellent gardien, selon moi, dans la Ligue nationale de hockey.
Il est calme
mais
comme Price.
On s'entend qu'en tout, puis moi, il n'est pas supposé être là. Pourquoi Fowler est là? Parce que Monty, ça n'a pas bien été en début de saison. Puis Jacob Dobbish, il était très fort dans les premières semaines. Puis à un moment donné, au mois de novembre, ça s'est carrément
moi, j'haïs pas ça, le ménage à 3.
Pourquoi?
Parce que Monty, là, il s'est resserré. Là. Lui, il savait, là, il jouait son avenir. Là. C'était sur le bord. Là. On dit même qu'il était ses blocs
ben,
de
moi, je pense que la game en Floride, là, si ça allait pas bien, c'était fini.
Ben,
il était à une game de terminer
ben,
sa carrière à Montréal.
Il aurait mis au ballottage.
Probablement.
Là, il s'est replacé. Lui, on va en avoir besoin des séries, là, parce qu'il y a de l'expérience.
Mais hein. Puis il avait été excellent en série contre les Capitals, c'est qu'il s'était blessé. C'est ça, Fowler,
pas d'expérience, il est très jeune.
Mais moi, c'est ça le problème, Pierre, de la chaise musicale à trois gardiens. C'est en Suisse avec Jake Allen, Kaden Primo puis Monty. Là, il goalait une game aux deux, trois semaines. Fait que, tu sais, t'as un Fowler qui a besoin de millage, qui a besoin d'expérience. C'est pour ça que j'ai bien de la misère à avoir trois gardiens, moi, qui se passent la poque.
Ben, d'après moi, Dobesh pourrait être
rétrogradé dans la Ligue américaine, un peu comme Truman disait hier.
Ouais.
Ce qui serait pas nécessairement une mauvaise idée. Mais d'un autre côté, il faut que tu maximises l'utilisation de Jacob Fowler pour qu'il soit prêt dans le futur pour sa carrière dans la Ligue nationale.
Les grosses équipes, actuellement, ça roule-tu à un goaler ou à deux goalers?
Ça dépend. C'est sûr que tu as des équipes élites.
Colorado.
Colorado, c'est les planches de bois qui goalent, Blackwood puis Wedgewood.
Les deux sont
écœurants. Blackwood est plus le numéro un. C'est sûr que tu as des numéros établis comme des Vasilevski, des Bobrovski en Floride.
Dallas.
Sorokin, c'est plus Jake Oettinger, c'est pas Casey DeSmith. Mais tu es capable de rouler avec deux gardiens maintenant. C'est beaucoup ça la mode de la Ligue nationale actuelle. C'est que tu n'as plus besoin de payer un gardien à 10,5 millions par année pour que ça fasse une différence. Tu peux avoir deux bons gardiens. Monty fait 3 millions. Le Fowler, dans son contrat d'entrée, il fait 800-900 000 par année. Mais à un moment donné, il va peut-être faire un 4-5 millions. Tu roules avec deux gardiens qui font un 10-11 millions chaque total.
Et les gardiens gardent moins de buts qu'avant.
Oui.
Tu regardes, là, c'est peut-être Carey Price qui a amené ça. Là. Les gardiens étaient hypothéqués. Hey, Martin Brodeur gaulait quoi, là? 80 matchs par année.
C'est ça que je vais aller voir, Martin Brodeur.
Regarde ses stats, là. Il gaulait quasiment tous les matchs.
Hey, il gaulait 78 games une année. 78 games.
C'est quelle année, ça?
C'est en 2006-2007. 48 victoires, 23 défaites, un pourcentage de .922. Quand même très bon, là.
Mais non, lui, c'est usé, là.
78 games sur 82. T'en laisses 4 à ton backup. Sérieux. C'est rare que tu vois ça à ce temps dans la Ligue nationale. C'est plus du 50-60 matchs.
Imagines-tu les hanches de Martin Brodeur?
Ça doit être terrible.
Puis des bras. Je pense que d'ailleurs, il m'a gagné, hein, Martin Brodeur, au niveau de son corps.
J'en doute pas. J'en doute pas.
Tu goals 78.
T'es tout le temps à ses genoux, tu te garages d'un bord puis de l'autre.
Ça, c'est à part les matchs des séries, là.
Oui.
Les matchs des séries, c'était un après l'autre.
C'était en deux, troisième monde. Je pense que c'était en deuxième monde que les Devils s'étaient rendus en 2007 contre les Hurricanes, je me trompe pas. Puis tu vois. Fait que t'as gaulé, mettons, un 8 games de plus. Fait que t'as gaulé prochain game dans ta saison.
C'est ça, donc...
Le plus haut nombre de matchs pour Price avec les Canadiens en tant que gardien numéro 1, c'était 2010-2011. Quand Lac était parti, on avait signé Alex Hald. Il avait gaulé cette année-là 72 games. C'est quand même pas pire, là. 38 victoires cette saison.
D'ailleurs, Carey Price, là, il gaulait pas 75 matchs par année. Il gaulait quoi, 60 matchs à peu près?
Mais lui, que je te dis, c'est ça, c'est 72 Price.
Bon,
c'est
après, plus après ça, je pense qu'ils ont diminué le ratio.
Après ça,
là.
Ses moyennes, c'était du 65 à peu près.
Bon, ben lui, là, le corps est fini, là.
Eh oui.
Les hanches.
Ben, lui, c'est Kreider qui a fini sa carrière entre toi et moi, là.
Ouais.
C'est ça le problème, là.
Donc, non, moi, ménage à trois, j'ai pas de problème avec ça.
Bon, plus à deux. Dans
non, mais t'as tout le temps avec le gars. T'as tout le temps ton gars à Laval qui peut remonter. Puis qui peut venir jouer le tour Buffett.
Ouais, ouais.
Fait que tu stresses toujours les deux autres.
C'est ça.
C'est bon, ça.
Non, j'aime ça. T'as une bonne théorie, mon Pierre.
Voilà.
Très bon.
Classique hivernal, tu disais à Miami, ça passe ou ça casse.
Ouais, mais t'as-tu écouté le match du 2 janvier dernier entre les Panthers et les Rangers de New York? Parce que t'avais le championnat mondial d'hockey junior à ce moment-là.
Ouais.
Le Canada qui jouait des matchs quand même d'importance. Fait que moi, quand j'avais le choix entre les deux, c'est sûr que j'allais vers le championnat mondial d'hockey junior. Mais tu trouves ça comment? Parce que c'était comme une première, là, parce qu'on avait déjà joué des matchs classiques hivernales du côté de Dallas au Texas. Température un peu plus correcte, là, du genre de 10-12 degrés. Mais là, on était vraiment dans le Miami. Là. C'est sûr que c'est l'hiver en Floride au mois de janvier, il fait un peu plus frais.
Ouais, bien, des tuyaux en dessous de la glace, là.
Mais les commentaires sur les réseaux sociaux, le monde t'en joie le vert, là. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui comparaient les Winter Classic, exemple, au Michigan Stadium 2014. Il y avait 100 000 personnes dans le stade. Red Wings contre les Maple Leafs. Il neigeait à plein ciel. Ou même à Buffalo en 2008, Crosby contre les Sabres de Buffalo. Tu sais, c'est le classique de la Winter, là. Tu sais, tu joues vraiment dans la grosse neige. Là, maintenant, on dirait que... Ah, on va faire différent, on va amener ça dans des places non naturelles.
La Ligue prend de l'expansion dans le sud, puis on veut aller chercher. Écoute, t'as des joueurs de hockey qui viennent de la Floride. Là. Fowler.
Austin Matthews, c'est un gars de l'Arizona. Fowler, c'est un gars de la Floride. Puis on dit que le hockey en Floride va extrêmement bien présentement.
Oui.
Puis qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Ah ben, trois présences en finale de la Coupe pour les Panthers, puis t'en as eu trois autres pour le Lightning de Tampa Bay.
Ouais, la fiscalité aide beaucoup, là.
Ouais, mais ça reste que les clubs ont mis le hockey sur la map pis pas à peu près, là. T'as deux clubs de la Floride qui se partagent la puck pour aller en finale.
Fais-toi manger 40 % de ton salaire ou 50 % de ton salaire à Montréal ou tu t'en vas en Floride pis tu payes 20 % d'impôts.
Ouais, des places le fun à jouer, là. T'as ben, Floride.
La madame, elle.
Nashville, Tennessee.
Vraiment, ta femme, elle aime mieux être en Floride.
Ouais, ouais. Puis il y a des fuites qui ont sorti sur le site de la Ligue nationale puis ça a été enlevé rapidement. Mais selon les rumeurs, la prochaine classique hivernale de 2027 serait du côté du Bristol Speedway, circuit NASCAR. On avait eu une classique de la Major League Baseball l'an dernier. Mais on voudrait jouer un match extérieur sur un circuit NASCAR. Ce serait une première dans la Ligue nationale. Ouais. Ce serait entre les Predators et les Hurricanes.
Et on a entendu aussi la rumeur à Montréal. On pourrait avoir un match comme ça, classique, au
dans
circuit,
l'épingle.
Au circuit Gilles Villeneuve.
Oui, ouais, c'est une possibilité. Mais...
Donc, on mêle la F1, le hockey. Tu comprends-tu? Là, on commence à peut-être faire des amalgames.
Il manque un gros stade à Montréal. Parce que, tu sais, là, le
stade olympique.
Ouais, le stade olympique. L'inclinaison des bancs puis l'acoustique est dégueulasse.
Un match du Canadien au stade olympique.
Oh, je sais pas.
Avec l'entonnoir.
Il est le stade, Pierre.
Oh là, il va être correct. Là,
ça a l'air qu'ils vont retaper l'intérieur pour 1 milliard. Là.
1 milliard.
Hein, c'est pas pire. Fait que là, ça a coûté proche d'un milliard le toit plus un autre. Fait qu'on va mettre 2-3 milliards là-dedans.
Imagine-tu à 2 milliards, quel stade qu'on aurait pu avoir, un stade vitré.
Pierre, Taylor Swift va revenir dans le stade olympique. Là.
Multifonctionnel. Madame Proulx le dit. Non. C'est ça. C'est le
Québec. Il aurait pu le qualifier. Moi, ce que j'aurais aimé qu'il fasse, tu qualifies tout à terre, mais tu gardes l'empreinte du stade avec la tour et tout, mais tu refais l'intérieur au complet.
L'image du Québec.
On a fait ça avec le Key Arena à Seattle, qui est devenu le Climate Pledge Arena. On a débâti tout l'intérieur de l'arena puis on l'a reconstruit à neuf de l'intérieur. C'est magnifique. Là.
Plywood City.
Oui, oui.
Voilà.
Vivement le Dôme, Pierre.
Ça fait le tour.
Yes, sir.
Après la pause, on jase d'économie.
Couture.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Dans le mid, Radio X. Le Space.
Ah, Mama Oulé.
Cast.
OK, fait que ça existe pour de vrai.
Le Space Cast.
OK.
Avec JF Blais.
Hey, les gars.
Et Louis Gauvin.
Oh, wow.
Lundi au jeudi, 19h.
Radio X.
En folie chez Boston Pizza. Créez vos propres pâtes pour seulement 11,99$. Ou choisissez un choix gourmet pour quelques dollars de plus. Offert en restaurant pour emporter et en livraison tout le mois. T'as le goût d'économie qui donne faim? T'as le goût de BP. Des conditions s'appliquent.
Jusqu'à dimanche 17h, Matelas Dauphin prolonge ses soldes d'après-Noël. Tous les matelas Dauphin sont réduits de 50%. Oui, tous les matelas et sommiers fabriqués par Matelas Dauphin sont offerts à 50% de rabais. Profitez de la prolongation des soldes d'après-Noël, dont tous les matelas Dauphin.
Sanivac est maintenant dans ta région, avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès-santé. Un message du gouvernement du Québec. Québec.
Couture.
Il n'est pas parfait.
Dans le mid.
C'est l'homme de la situation, à ce qu'on m'a dit.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio. X.
Ça roule. Ça roule. Ouais, c'est le CES de Las Vegas.
Oui.
Beaucoup d'innovations.
José Adam, il va assez régulièrement.
Oui.
Il vient nous en jaser une fois de temps en temps.
Voilà, des TV, toutes sortes d'affaires. Et hier, ouais, il y avait le grand patron d'NVIDIA, Jensen Huang, puis lui, il dit qu'ils mettent beaucoup l'accent, là, 2027, donc l'an prochain, les voitures autonomes. Donc, il dit, moi, là, je vais... Pour NVIDIA, toute l'infrastructure, les puces électroniques, les microprocesseurs, on s'en va vers une industrie de voitures autonomes. On va pousser ça. On a une entente avec Uber et d'autres fabricants, mais on dit qu'on ne veut pas se limiter.
C'est les modèles Tesla qui sont fabriqués pour être autonomes un peu plus?
Bien, c'est tous les modèles. Là, t'as Waymo avec Google, t'as Tesla, t'as Uber, t'as d'autres. Je pense Stellantis. La plupart des fabricants...
Mais Uber ne fabrique pas leur propre voiture.
Non, mais eux autres, ils vont l'avoir avec leur conducteur. Éventuellement, ils vont offrir du service par l'application. Tu vas avoir une voiture autonome qui va arriver chez vous. Il n'y aura pas de conducteur là. Donc, c'est une panoplie de joueurs qui vont se mettre ensemble. Mais ce que NVIDIA dit, pour nous, l'intelligence artificielle et la voiture autonome, ça fait partie d'un ensemble.
Oui, oui.
Donc, lui, hier, a parlé de ça. Donc,
c'est parce que tu m'as fait penser que le modèle Tesla, je ne sais pas si tu te souviens quand on a présenté ça, ça doit faire un an à peu près de ça, le Cybercab. C'est un taxi 100% autonome, fait que c'est un véhicule qui est fabriqué pour être vraiment autonome. T'as aucun volant, rien là devant. Fait que
ben,
tu t'assois
ça roule. À Austin, ça. Texas, les Tesla autonomes roulent.
San Francisco aussi, ça commence.
On est en train d'ouvrir le marché. C'est ce qu'on dit, notamment de Tesla, le robot taxi.
Ouais.
2026-2027, ça va être du déploiement à grande échelle. Là, on a commencé avec Austin, Texas. On va le déployer dans d'autres villes américaines. Et ça s'en vient. Trump a signé des décrets là-dessus là, pour autoriser l'usage de la voiture autonome à grande échelle. Et on va l'amener. On dit qu'on va avoir des circuits. Éventuellement, ça va être des secteurs. Hein. Peut-être le vieux... je sais qu'à San Francisco, moi, je suis allé essayer... Hey, c'est 2000... Attends une minute. J'étais allé là avec le Journal de Québec à l'époque. Je pense que c'est 2000...
C'est pas la fois que t'es allé voir Metallica?
16, non. 2016-2017. Je pense 2018, j'avais fait un reportage avec... c'était qui, donc? C'était Uber. Ouais, c'était Uber.
OK.
Eux autres, il y avait un programme de voiture autonome.
Ah ouais.
Et le gars qui était là, qui était en charge du programme, lui, il arrivait de chez Google Waymo. Et lui, il était accusé d'avoir volé toute la technologie.
De Google?
Oui. Il est allé en tôle.
Mais voyons donc.
Oui, il est allé en tôle, le gars.
Si as-tu parlé avant qu'il se ramasse en tôle?
Oui, ou... parce que moi, j'ai fait des reportages avec lui.
OK.
Et lui, il était gracié par, je pense, Trump ou Biden.
OK.
Oui, il était gracié. Le gars était en tôle. Il était en tôle pour...
Fait que ça a été confirmé là, qu'il avait volé des données
vol
Google.
De secrets industriels.
Okay.
Parce que lui, il était parti de Waymo, Google. Il avait tout ramassé la technologie.
Il était cherché ça, puis il a ramassé ça à Uber.
Uber avait payé cher pour l'avoir, parce que lui, il avait comme une start-up. Et... non, ça avait mal fini, là.
Hey.
Mais lui, j'avais fait un reportage avec lui. Je m'étais assis avec lui. On avait jasé pendant près d'une demi-heure. Il m'avait tout expliqué où on s'en allait. Après ça, on était allé essayer la voiture. J'étais avec un photographe du Journal de Québec à l'époque. Et on avait essayé. On avait été chercher une pizza dans San Francisco.
Ça s'était bien passé parce que 2016-2018, c'était très embryonnaire.
C'est embryonnaire, ah, mais ouais. On était déjà en avance. Là. On avait un conducteur qui était là pour prendre le volant au cas où. Là.
C'est bien beau des voitures autonomes, là, mais au Québec, Pierre, en tout pis moi.
Ben, ça va être tough.
T'as un sensor devant le bumper et il tombe un peu de neige. Mais le sensor ne fonctionne plus. Les caméras là, ouais. Pour détecter. Il y a une multitude de caméras que ça te prend pour conduire un véhicule, ben, pour qu'un véhicule autonome puisse se promener dans une ville. Mais avec nos conditions ici, ça va être très difficile.
Ouais. Et Jensen Huang, ce qu'il a dit, il dit moi, là, le. Il dit, moi, je mets la technologie au service, mais il dit, moi, je regarde aller les choses. Tesla est en avant, way ahead.
Ah oui, solide. Ouais,
parce qu'eux autres accumulent la donnée depuis 15 ans sur tous les parcours, toute la data, toute l'intelligence artificielle.
Ils ont des ces affaires-là. Puis, as-tu des véhicules chinois aussi qui se lancent un peu dans l'autonome?
Oui, t'as du chinois aussi. Là,
mais t'en as pas pantoute aux États, ça, j'imagine.
Ah, ben t'as des start-up chinoises qui sont aux États-Unis qui travaillent aussi avec ces gros-là.
OK.
Fait qu'éventuellement, tout ça va arriver à quelque chose. Là. Et là, on est là. Et quand tu dis NVIDIA embarque avec eux autres, parce que le signal est assez fort. Tu vois, le titre d'NVIDIA monte $1.31 aujourd'hui. 189.
Ça va être le fun, hein? À un moment donné, jouer au ski beau pour monter à Montréal, bien relax. Plus besoin de chauffer.
Ben, tu l'as déjà, hein? Il y a certains modèles de voitures. Moi, je connais.
Autonome.
Les gens partent ça à 20, là. Puis ils mettent la conduite autonome.
Ah, je l'ai testé une fois avec un des chums qui me teste là. C'est capoté.
Non, elle dépasse. Elle dépasse tout seul.
Mais tu peux vraiment aller chercher la vitesse que tu vas avoir en croisière, puis après ça, se met dans la voie de droite. Telle sortie, sors-moi ça à telle vitesse. Tu peux contrôler ça d'une manière assez chirurgicale.
Non, on s'entend, on parle de San Francisco. Il n'y a pas de neige là.
Non.
Éventuellement, peut-être au Québec avec peut-être des pare-chocs chauffants, puis de la technologie où on va pouvoir peut-être dégager les sensors.
Ça ne coûtera pas trop cher d'assurance, ça?
Mais écoute, on dit qu'éventuellement, tu vas pouvoir acheter une voiture autonome et la faire rouler. Et récolter, si tu veux devenir un taxi, ben t'as fait rouler. Puis... Parce que ta voiture adore, là. Actuellement, là, je sais pas si tu as vu les prix des voitures, là.
C'est quoi, c'est 55, 60 000?
Prix moyen d'une voiture aujourd'hui, c'est rendu combien?
65 ou 55?
63 000.
Ouais, c'est ça, 65 000.
Avant pandémie, c'était bien moins cher.
C'était quoi, 45, 50?
Ah, avant pandémie, attends une minute, j'ai les ici, là. Attends une minute, je l'ai tué là rapidement. Mais là, usagé, t'es rendu à 36 911. Prix
moyen.
Ah,
mais je regardais récemment pour m'acheter une nouvelle voiture, puis t'es aussi bête de te lancer dans le flambette que d'acheter dans les used qu'il y a 2-3 ans. T'es quasiment au même prix.
En 2018, OK, c'était autour de 36 000 piastres, une voiture neuve.
Et puis c'est rendu à 63
000.
Ça a doublé presque.
L'usagé est rendu à 36 911.
Ça n'a pas de bon sens.
Donc, la voiture usagée, maintenant, moyen, prix moyen, est rendue plus élevée qu'une voiture neuve en 2018.
Parce que le used s'était calmé un petit peu, mais il y avait une période que l'usagé était même plus cher ou presque que le flambant neuf. Il y avait tellement de demandes sur les markets de ce monde que les prix explosaient partout, là, d'un bord puis de l'autre.
Voiture électrique, tu as des voitures à 90 000 $ ça fait augmenter la facture, évidemment.
Oui.
Mais de plus en plus, les constructeurs, là, je ne sais pas si tu as vu.
Il y a
des.
Trop de rabais du gouvernement, là, t'en as encore, mais moins. Là.
On est en train d'enlever les voitures à essence complète. Soit qu'on a hybride, essence électrique ou électrique. Et on est en train d'enlever l'essence. Et là, je pense qu'il y a certains fabricants qui vont revenir en arrière. Aux États-Unis, là, l'électrique, on est en train de le tasser tranquillement parce qu'on ne peut pas arriver là.
Volkswagen tire à la plug, là, pour faire un jeu de mots. Là.
Exact.
Les autres, ils voient bien que ça ne fonctionne pas, surtout dans nos conditions hivernales de débiles. Mais un hybride, c'est peut-être le meilleur des mondes pour l'instant.
Ben moi, là, pour l'instant, moi, j'ai essence. Ça me fait très bien. Là.
Moi aussi, là, mais je parle, mettons que tu as le choix, là, électrique ou hybride. Tu restes dans l'hybride.
Ah non, je pense hybride va venir avant.
Mettons 150 km d'autonomie, puis tu fais un peu de route, l'essence embarque, that's it. T'as pas besoin de te charger puis de trouver tes recharges.
Oui, mais hybride qui se recharge tout seul.
Ça, c'est intéressant. Mais
c'est
oui.
Ça, je veux. Je veux pas une histoire de patente de plug, là.
Non, mais ce qui est le fun, c'est, mettons, l'essence embarque, t'arrives à la maison, tu te charges, puis t'as toujours une autonomie qui est là, qui est présente quand tu fais de la ville, mais quand tu fais du plus longue distance, l'essence, elle va embarquer.
Oui, mais qui se recharge par lui-même. Oh, l'alternateur est à l'intérieur de la voiture. T'as pas besoin de le brancher chez vous.
Ça, c'est malade, là.
Toyota, je pense, font ça.
Oh, oui.
Ils en ont un modèle.
C'est pas le BZ4X, c'est-tu ça?
Pas lequel, là, mais moi, c'est ça que je veux. Là. Je veux qu'une recharge intégrée au véhicule. Donc, tu arrives chez vous, t'as pas à sortir de l'agrément.
Sortir le fil à moins 22. Là.
Tu t'en vas au chalet, t'as pas à sortir de l'agrément.
Tu le fun, ça.
Exact. Voilà. As-tu encore du temps un peu?
Pas mal fini, Pierre.
Les bourses, on va finir avec ça. Vert. C'est pas du grand vert comme hier, mais c'est du vert. Le pétrole baisse. 58,5. Le Bitcoin qui est à 94 000, prend une débarque, là, 92 600. Baisse de 1 200. Ton or, tu dis, ouais, l'or. Mais ben, l'or monte de 38 4486. Et l'argent monte un petit peu. Voilà, ça fait le tour.
Mm-hmm.
On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 418-670-9098.
Visa. Radio X. Gérer entreprise LD Inc. Pour vos bureaux, cliniques privées, cliniques dentaires et usines, exigez le top. Propreté extrême et professionnelle et réponse rapide 24/7. Gérer entreprise LD Inc. 581-309-0246.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Jusqu'au 31 janvier, Dixili Charlebourg vous offre le dîner 2 morceaux de poulet pour seulement 10 $ plus taxes. En salle à manger et pour emporter. Dixili Charlebourg, 1279 boulevard Louis XIV. Restaudixili.ca.
Le meilleur poulet frit, c'est Dixili.
Samedi 20h à Télé-Québec, pour une fois avec Paul Arcand.
J'ai appris des affaires sur moi-même.
Interviewé par Pascal Renaud-Hébert.
Que t'es tanné que les gens soient intimidés par toi?
Je gagne à être connu.
Mike Ward.
T'as combien de Ferrari?
J'en ai vendu 6 à Luc Poirier.
Michael Kingsbury.
Mets-moi 4 heures devant un micro.
Ouais, mais mets-moi en haut d'une montagne.
Ouais,
là.
Non.
Et Denise Robert.
Je suis en train de faire une proposition.
Ça sent bien, ça sent bien.
Une soirée riche en révélations. Pour une fois avec Paul Arcand, samedi 20h. Aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Les manchettes sportives, présentées par BPM Sport.
BPM Sport.
La radio des sports au Québec.
Hey, c'est Jordan. Au championnat mondial d'hockey junior, au moins on sombrera pas trop dans la honte. Quoique ça reste honteux, mais quand même. Le Canada, pour la première fois en 3 ans, est reparti avec une médaille. Rien de moins. Le bronze. Une victoire de 6-3 face à la Finlande. Sam O'Reilly a marqué 2 buts et c'est surtout les performances de Gavin McKenna et Michael Age avec 4 points qui ont fait la différence. D'ailleurs, Age, l'espoir du CH, terminera le tournoi au sommet avec une récolte de 15 points. Point. Solide, man. Toujours au championnat mondial, félicitations à la Suède qui, elle, a eu le numéro de cette fameuse Tchéquie. Victoire de 4-2 pour les jaunes. Une première depuis 2012. Good job, guys. Tiens pour votre victoire. Un peu de ABBA. Et dans la NFL, un solide raz-de-marée dans cette traditionnelle semaine des congédiements. Parlons un peu de Pete Carroll, qui n'aura pas eu le retour espéré dans la NFL. Après une seule saison avec les Raiders, on lui a dit « Bye-bye, Peter ». Je vous rappelle que le gars avait quand même passé 14 saisons avec les Seahawks avant de prendre un break d'un an et ensuite de se joindre à Vegas. Mais là, rendu à 74 ans, tu peux prendre un break. Sinon, le QB bâti sur un frame de chat des Dolphins, Tua Tagovailoa, pense quitter Miami, lui qui a publiquement dit journaliste hier est ouvert à un nouveau départ. Wow! Méchant leader, ce gars-là! Arc!
Pour plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par Giroir Équipement. Une équipe passionnée en machines de levage, de manutention et d'élévation de personnes. Concessionnaire spécialisé de Manitou, Giroir Équipement vous offre un service inégalé dans votre région. Giroir.qc.ca.
Couture dans le mid.
Avec Pierre Couture. Everwin. Et Nick Cloutier.
Radio X.
Oh, les radars photos sont payants.
Hein,
2025. Hey, ça a rapporté 133 millions.
L'enfer. C'est lequel le plus payant?
C'est Louis-Hippolyte Lafontaine.
Ben oui.
Le tunnel.
Ouais, dans la zone de travaux.
Ben ouais, on a réduit ça à 50.
Hi, Gary.
Ouais, c'est ça l'affaire.
L'as-tu pogné là?
Ouais, quand t'es allé à Montréal une fois.
Hey.
Mais c'est ça, c'est parce qu'on réduit ça à 50, puis tu passes de comme 90, 100 à 50 d'une
ouais.
shot. Là.
Et la facture moyenne, l'amende moyenne là, dans ce tronçon-là, là, c'est 368$. Ça veut dire que le monde arrive à 80, 90, puis ils n'ont pas idée que c'est 50.
Dans la zone de travaux, là. Ouais. C'est ça qui fait mal.
Exactement. Puis
j'imagine que lui, à la hauteur de Saint-Sacrement, Charest doit être payant en joie le vert.
Très payant, lui aussi.
Ouais.
Tu vois, lui, du 20,